Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 45e épisode, l'épisode numéro 44. Nous sommes le 18 mai 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens absolument merveilleux tels que Marc-Antoine Perrenou. Bonjour Marco.
Bonjour.
Adkerus pour les intimes. Tu vas bien?
Ouais, du coup, oui, je vais bien. Je travaille chez Clever depuis plus longtemps que je ne m'en rappelle. Et je fais principalement des galettes, des crêpes, des VM et des gamins, en gros, chez Clever, voilà.
Marc-Antoine a eu une livraison récente. Il est donc une nouvelle fois papa. Nous avons également le grand, le beau, il vient de l'Est, il boit de la Mirabelle, Pierre-Antoine Grégoire, dit The Pag. Bonjour.
Bonjour. Alors moi je travaille avec Clever depuis suffisamment peu de temps pour encore m'en souvenir. voilà.
Et
j'ai aussi fait des enfants et des galettes et des crêpes.
Et un jour on enregistrera de façon alcoolisée ce podcast, vous découvrirez le talent d'imitation de Chewbacca de Pierre-Antoine Grégoire qui est absolument magnifique. Et aujourd'hui, on a un invité qu'on pourrait qualifier dans la veine de Chewbacca, puisqu'il s'agit d'Erwan Velu. Bonjour Erwan.
Hello, bonjour à tous.
Bon. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Erwan?
Oui, bien sûr. Erwan Velu, donc voilà, je travaille dans le milieu open source depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Ça ne me rajeunit pas, j'ai fait de la distrib Linux, Mandrake à l'époque, un peu de Red Hat, un peu d'aviation aussi, où j'ai co-designé un système qui vole dans les avions tous les jours, qui permet aux passagers de se distraire.
C'est le premier Linux que j'ai installé, Mandrake.
Oui, mais beaucoup, tout le monde dit ça, tu sais, tout le monde dit ça, et voilà, donc c'était vraiment très sympa comme aventure. Et aujourd'hui, donc, je travaille chez Criteo, je suis dans l'équipe hardware, donc on gère une infrastructure bare metal au quotidien, donc entre l'achat, les performances, le diagnostic.
Comment ça, Criteo n'est pas dans le cloud?
Et non, nous sommes en bare metal. Une belle infra de bare metal de 50 000 serveurs.
Voilà. Avec des data centers quasiment entiers, je crois, à vous? Ou des grandes salles louées dans des DC, c'est ça?
Ouais, des grandes salles un peu partout. Et par rapport au sujet du jour, je m'occupe aussi du kernel Linux chez Criteo. Donc voilà un petit peu mes sujets. En parallèle de ça, donc sur le temps libre, je suis le cofondateur de Kernel Recipes, qui est une conférence qui se tient tous les ans à Paris, qui a pour but de faire rencontrer des gens de tous niveaux. C'est accessible à tous, c'est vraiment le concept. Tout le monde doit pouvoir y participer, que ce soit au niveau technique ou financier. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on fait ça. Et aujourd'hui, on a un super code d'amour de la part des développeurs kernel. Ce qui fait que quasiment tout le top 10 nous adore. Ils sont là tous les ans. Donc voilà, c'est un joli projet qui marche super bien. Voilà, je suis assez content du résultat.
Faut que vous imaginiez une sorte de FOSDEM Focus Linux. C'est-à-dire que vous avez que du kernel Linux, mais avec cette même popularité, ce côté incroyable open source que tu peux avoir au FOSDEM, où tu vas réellement croiser les contributeurs des projets,
pour ça peut être
que le kernel.
Ouais, pour la petite histoire, en fait, c'est un anti-FOSDEM. C'est-à-dire que c'est suite à un FOSDEM où je me suis dit, en fait, j'en ai marre, c'est qu'à chaque fois que je vais au FOSDEM, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'intéresse, j'arrive, en fait, je peux pas rentrer et je peux pas voir ce qui m'intéresse. Ou si j'arrive à rentrer, en fait, je suis tellement déçu de ce que j'ai vu que je me dis, putain, j'aurais dû aller à l'autre truc qui est en même temps, ça aurait été vachement mieux. Et en fait, je me suis dit, ce serait vachement mieux que je m'assieds, que ce soit les mecs qui passent, en fait. Et du coup, on s'est dit, on va faire un truc comme ça, on va se poser, et il y a les mecs qui vont dépassionner, qui vont venir parler de leur taf. Et ça a commencé comme ça, autour d'un barbecue, avec des copains, on s'est dit, tiens, on va se lancer ça. Et puis, de fil en aiguille, ça a super bien fonctionné, parce que du coup, on obtient vraiment un écosystème entre les gens qui écoutent et les gens qui parlent. Et du coup, il y a une vraie proximité, les gens osent s'interrompre, discuter. Et c'est ça qui crée aujourd'hui, ce pourquoi les gens viennent nous voir avec un CP, c'est vraiment cette ambiance de dingue où en fait tout le monde peut parler, tout le monde peut interagir.
Bon, moi perso au FOSDEM, j'ai lâché l'affaire de l'idée d'aller dans les salles. Moi je suis là pour boire du maté et parler avec les gens. Lâcher l'affaire d'aller dans une conf. ok, bon comme vous l'avez sans doute tous compris, on est sur un épisode spécial kernel. On va parler de la 5.12. 5.12, c'est une réelle de fin avril, si ma mémoire est bonne. Ça doit faire 15 jours, 3 semaines qu'il est sorti, le 5.12. C'est ni une grosse ni une petite release, c'est une release classique du kernel. J'ai pas le nombre de contributeurs en tête, mais on doit être dans les 1000 quelque chose comme d'hab. On vous a, comme d'habitude, sélectionné, nous, les fonctionnalités qui nous plaisaient dans le kernel. Ce qui veut dire que ce n'est absolument pas exhaustif, hein, parce que comme d'hab, le kernel, c'est très large, ça fait des tas de trucs. Et donc, le changelog est monstrueux et s'occupe de trucs où d'habitude... Enfin, on n'a pas nécessairement, nous, les clés de lecture ni l'intérêt d'en parler. La première grosse news qui est marrante, qui parle de Virtu, c'est le support de Linux comme partition racine dans Hyper-V. C'est une news qui est hyper, hyper marrante. Qui a envie de détailler un peu cette news?
Alors, moi, je trouve ça assez intéressant comme news. En fait, c'est dans la série d'une suite de travail qui a été initiée par Microsoft. Et ce que je trouve sympa sur ce projet-là, c'est qu'on sent la pression en fait des autres hyperviseurs sur Microsoft et qui se rendent compte en fait qu'ils vont pas pouvoir éternellement ignorer, on va dire, tout ce qui se passe dans l'environnement cloud, et donc on les sent un peu obligés d'aller vers ça. D'ailleurs, dans la discussion autour de ce projet-là, ils avaient avoué entre guillemets qu'ils faisaient ça en avance de phase, c'est-à-dire être capable d'offrir la partition racine, donc en gros l'équivalent du DOM 0 sur un exam, sur du Linux, parce qu'ils avaient probablement besoin, enfin qu'ils allaient avoir une demande client qui allait dans ce sens-là. Donc on sent qu'il y a un gros client qui a mis pression en disant « je veux avoir un Linux sur la partition racine », donc du coup ils ont commencé à attaquer le travail. Ils ont une bonne équipe Linux, parce qu'ils ont fait tout ce qui est WSL aussi, etc. Donc on sent leur envie, entre guillemets, d'intégrer Linux dans leur écosystème. Et au-delà de l'envie, je pense qu'ils vont pas avoir le choix. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un point tournant intéressant sur la 5.12, c'est que du coup, on peut utiliser Linux comme partition racine pour un hyper-V. Moi, ça me paraît être une news assez majeure, entre guillemets, dans ce sens-là, c'est qu'on peut se passer du Windows kernel pour faire un hyper-V.
Moi, je pense que la Windowsisation la Linuxisation de Windows est quand même un truc qui est hyper en marche. Et je pense que c'est quand même vraiment une bonne chose. Enfin, la plupart des développeurs qui ont utilisé WSL2 en font des très très bons retours. Et ça va devenir une plateforme intéressante pour les développeurs, ce qui était pas nécessairement un truc hyper apprécié des développeurs. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Et le fait qu'ils soient en train de migrer Hyper-V vers quelque chose d'agréable à utiliser, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, je pense que clairement, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont pas envie d'avoir un hyperviseur de base.
Ouais, et puis avec WSL2 et tout, maintenant que ça supporte les applications graphiques et tout, la Microsoft, ils sont clairement en train de faire une réalité de Linux on the desktop. Là, ça y est, l'année de Linux on the desktop, c'est grâce à Microsoft avec les features de WSL finalement. Du coup, le fait qu'ils avouent que bon, par contre, côté serveur, c'est eux qui avaient la dominance et qu'ils fassent eux-mêmes le travail pour pouvoir faire l'inverse sur le serveur, c'est pas plus mal, je pense.
Clairement. Y a des limitations encore ou juste c'est bon, on peut utiliser Hyper-V directement et c'est parti, ça fonctionne, ou il y a encore des limitations?
Ça semble être en fait dans ce que je disais tout à l'heure, dans une série en fait de travail qui est réalisé de la part de Microsoft. Là, ils sont en train de prévoir dans les prochains kernels toute la partie de sécurisation. Qui va permettre en fait de partager les contextes mémoire chiffrés entre l'hôte et les VM. Donc je pense qu'on n'est pas vraiment, enfin ça doit être utilisable en tant que tel. Par contre, si tu veux faire de la prod en tant qu'hébergeur avec un Hyper-V sur un 5.2, ça me paraît probablement un peu juste en termes de fonctionnalité pour avoir quelque chose de robuste et de sécurisé. Par contre, le fait qu'à chaque release maintenant ils vont nous rentrer des nouvelles features autour de cet écosystème-là, on peut estimer que d'ici quelques releases de stable, on va avoir quelque chose qui sera utilisable en production. Et c'est même à peu près certain qu'ils l'utilisent déjà, eux, en bêta-test chez eux, sur certains infras un peu isolés, quoi. Donc, moi, je serais mitigé. Pour moi, c'est un point de départ important pour le passage quasiment à du full Linux pour Hyper-V, mais pas suffisant pour tourner de la prod dessus, quoi.
Même pour l'instant, les features d'isolation sont pas complètes non plus. Pour l'instant, c'est ils ont amorcé ça, quoi.
Moi, je trouve ça incroyable. Si on m'avait dit il y a 10 ans, tu vois, que Microsoft pousserait .NET Core, Hyper-V et compagnie en Linux first, SQL Server qui tourne sous Linux, bon, je pense que c'est un changement culturel chez eux qui est incroyable.
Ouais, c'est une question que je me pose, par exemple, là, sur ce changement-là, au-delà du fait qu'il y a un gros client qui leur a péri un peu tapé avec le, enfin, il leur a un peu tendu le bras avec un gros chèque, pour le faire, la question c'est, est-ce qu'au final, ils vont pas arriver à un moment où, une fois que ce sera fait, ce sera difficile pour eux de justifier d'avoir des équipes, on va dire, larges pour maintenir un kernel spécifique, on va dire Windows, alors qu'ils auront une coparticipation sur un kernel Linux, sur lequel ils pourront minimiser, on va dire, ou du moins profiter de la collaboration avec d'autres parties, que ce soit sur les drivers, sur certains technologies, enfin, tu vois, sur l'écosystème, quoi. Est-ce que, ils vont pas un peu réduire après, à terme, c'est pas demain matin, mais, est-ce que ça peut pas les aider, entre guillemets, à mieux mutualiser certains co-développements, je sais pas.
Ouais, Windows deviendrait un serveur graphique à l'intérieur de... Ce serait drôle.
Bah, tant que tu gardes tout leur environnement, on va dire, applicatif, que tu gardes leurs mêmes API, etc., et que leur écosystème fonctionne, quel est le besoin d'avoir un kernel plus qu'un autre si tu arrives à un ISO fonctionnel J'imagine que s'ils vont dans cette direction-là, c'est qu'il y a soit des intérêts de sécurité, soit des intérêts de peut-être de performance ou de structure, je sais pas. Je connais pas assez Windows pour avoir un avis vraiment tranché, mais tu vois, c'est pour moi, c'est vraiment, ça pose question, quoi. Pourquoi s'emmerder à faire ça si au final tu t'en profites pas réellement au-delà du client qui tord le bras, quoi.
Après, c'est probablement aussi lié à des détails internes au niveau de leur implémentation de la plateforme Azure, hein. Il y a probablement des choses où ils ont besoin de ça en interne dans l'implémentation de leur plateforme cloud. C'est-à-dire que ils ont quand même une grande partie de payload Linux qu'ils font tourner, et moment donné, c'est bien d'optimiser dans quoi ça tourne et comment c'est sécurisé, quoi.
Je pense aussi qu'il y a un problème démographique de compétences chez les clients. Tu vois, il y a un moment, la question, elle est les sysadmins chez tes clients. Aujourd'hui, le sysadmin Windows pur, tu vois, qui pouvait encore exister il y a 15 ans, beaucoup dans les boîtes. Tu vois, à l'ère du cloud et du DevOps, le sysadmin Windows, serveur Windows, que serveur Windows, faudra me trouver, tu vois.
Il y a encore un bon vivier, mais c'est vrai que sur la partie cloud, clairement, Linux a pris, enfin, voilà, aujourd'hui, faire du cloud sans avoir du tout de Linux dans la France, ça commence à être sacrément compliqué. Et donc, je pense que de ce côté-là, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent rester compétitifs d'un point de vue en tarif et ratio, enfin, prix-perf et fonctionnel, c'est compliqué de passer outre Linux, quoi.
Ouais, puis réseau compétences.
Je pense qu'il y a peut-être aussi une manière de préparer le terrain, il y a peut-être une manière aussi de préparer le terrain sur toute la partie mobile, hein, où là, pour le coup, bah, Linux est hautement majoritaire, quoi.
Ah, mais ils sont pris des bonnes gamelles. Ouais.
Donc c'est pas anodin.
Donc voilà, pour moi, grosse news sur 5.12 de voir quelque chose upstream de ce niveau-là. Ça montre vraiment une grosse implication de Microsoft dans cette transition vers un système où on se retrouve avec du Windows tout en haut et toute la couche de base se retrouve sur du Linux.
Deuxième transition plus hardware, le support de l'USB 3.2. Peut-être que c'est le moment où il faut qu'on explique aussi. L'USB, vous avez les normes de physique de connexion. Donc là, vous avez A, B, C globalement. Donc l'USB A, c'est l'espèce de. Est-ce que j'en ai là ? C'est l'espèce de.
Rectangle plat. Qui a trois sens.
Gros truc qu'il y avait sur les imprimantes et les scanners historiquement.
Ouais, voilà, et qu'on a encore un peu. L'USB-C, c'est le nouveau truc qu'on utilise tous, que même Apple il l'a adopté, qui est du coup la prise. Cependant, après, il y a la norme du câble, qui n'est pas nécessairement la même, et après, il y a comment tu transites des informations à l'intérieur. Notamment, tu peux très bien balancer de l'information qui n'est pas USB dans une interface physique USB. Si vous êtes paumé, c'est normal, tout le monde est paumé. C'est le gros problème de cet écosystème-là,
ah, plus, et d'avoir de périphériques. Plus tout ce qui est lié aussi à l'alimentation, ce qui est souvent un gros brôle d'ailleurs dans les... Quand tu as un hub USB, tu as qu'un ou deux ports alimentés et il faut tester pour savoir lesquels, et ainsi de suite, quoi. Donc ce genre de joyeuseté qui font que quand tu as un hub avec 8 ports, en fait, tu as un ou deux ports vraiment utiles et les autres sont là pour... à une portion des fonctions, on va dire.
Et du coup, là, quand on parle du support de l'USB 3.2, on parle vraiment de l'encodage de discussion bus sur l'USB et de comment un système peut parler sur un câble USB qui lui-même est abstrait. On est d'accord avec ce que je viens de dire ou...
Ouais, et là, d'ailleurs, enfin, dans le 5.12, du coup, c'est même un sous-ensemble encore de ça, pour être encore plus dans le détail. C'est-à-dire que là, on parle du 3.2 gen 2x2. C'est-à-dire que dans le 3.2, t'as la gen 2, et dans la gen 2, ils ont fait maintenant le mode multilane, qui est x2. Alors, tout ça, ça a été inventé il y a longtemps, hein, mais c'est des implémentations.
Et surtout, c'est Street Fighter, en fait.
Ah, exactement, c'est le 2 turbo.
Alpha Beast Turbo.
Et du coup, non, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant là, c'était prévu dans la norme, mais personne s'était vraiment embêté à faire l'implémentation. D'ailleurs, les premiers prototypes de ce truc-là ont été montrés en 2018, donc c'est quand même plutôt récent. Et en fait, ce qui est intéressant avec le Gen 2x2, c'est qu'en fait, entre tes deux partenaires, on va dire, de la communication USB, on peut, en fait, alors il faudra avoir des câbles spécifiques, hein, ce qui est la joyeuseté en ce moment, c'est de trouver les câbles avec les bonnes spécifications, parce qu'en tout cas, avec USB-C, on a vu que la diversité des câbles, avant, un câble USB, c'était un simple câble USB. Maintenant, dedans, tu as des chips des deux côtés qui négocient ce qui est possible de faire, etc. Donc, voilà. Parfois, tu as des câbles qui vont faire que power, tu as des câbles qui vont faire power plus vidéo. Enfin, donc voilà, l'écosystème est vraiment devenu un peu plus compliqué. Et là, en tout cas, dans cette sous-version-là, donc, qui est supportée dans le 5.12, maintenant, on peut faire du 2x2. C'est-à-dire, en fait, on est capable de faire une sorte de bounding comme on fait en réseau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser deux liens qui se superposent dans le câble pour faire de l'agrégation en fait de canaux, et on peut atteindre comme ça, donc la norme prévoit en fait l'agrégation soit en 2x5 gigabits, soit en 2x10 gigabits, soit en 2x5 ou en 2x10, ce qui peut permettre d'atteindre 20 gigabits de bande passante sur un câble USB. Là où je dis que ça, je trouve que ça commence à doucement se rapprocher des usages, c'est que justement avec l'avènement des périphériques extrêmement rapides type NVMe, on peut se dire que d'avoir ce type d'interconnect disponible, on va pouvoir enfin avoir des, avec une connectique relativement simple, avoir accès à des débits sans passer par du PCI, etc., qui est un petit peu compliqué à sortir de la machine. Avec une simple interface, entre guillemets, USB 3.2 Gen 2, ben, on va pouvoir, en fait, passer des débits quasiment à vitesse du bus interne, voire se rapprocher, enfin, tu vois, là, on parle de quelque chose que j'ai autour de 2 gigaoctets secondes, ça fait à peu près les 2/3 de la bande passante d'un système de mémoire d'un laptop, par exemple. On se veut dire qu'on peut obtenir un interconnect qui est quand même extrêmement rapide avec une connectique assez simple. Et je trouvais cette transition-là intéressante sur le 5.12 parce qu'on va pouvoir, avec les bons câbles et les bonnes machines, bah quasiment pouvoir brancher soit deux machines QAQ, soit mettre un NVMe comme ça en externe. On peut même imaginer avec auto-alimenté par l'USB-C. Et là, ça peut faire quelque chose d'assez sexy ou juste sur un petit câble comme ça, tu te retrouves avec un NVMe externe
qui marche à très haute vitesse, quoi.
Pareil, enfin, t'atteins les 2 gigaoctets secondes, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais un transfert NVMe mémoire quasiment à pleine vitesse. Quoi. Donc voilà, je trouve une transition intéressante là-dessus sur le 5.12 et de l'USB. Donc voilà, donc faut les nouveaux câbles. Donc la matrice des câbles va s'agrandir. Et je pense que j'ai revérifié un petit peu ça.
La matrice des câbles va s'agrandir avec des trucs qui sont à l'intérieur, à la cheval, du caractéristique au fin fond de la liste de façon complètement sibylline. Il y a quand même un vrai problème quand tu achètes un putain de câble.
Ouais, je me suis encore fait attraper l'autre fois. Je voulais avoir un câble qui fasse power et vidéo. Bah, il faisait que power, parce que j'ai pas fait gaffe. J'avais pas la vidéo. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, on commence à atteindre une sorte de, pas de summum, mais tu vois, je trouve de trucs intéressants sur ce bus USB là qu'on traîne depuis 20 ans. Et qui arrive vraiment à ce système où, en fait, tu peux vraiment tout connecter, quoi. Le power, la data, à des vitesses très lentes, comme des vitesses extrêmement rapides, qui sont proches de la vitesse, de la bande passante d'une mémoire. Enfin, je trouve qu'on a un écosystème assez sympa.
Je pense qu'il y a un moment qui rasterise la norme, quand même, tu vois, un truc simple à comprendre pour tout le monde, parce que je pense que ça manque vraiment de visibilité pour le grand public, là.
Bah là, ils ont utilisé des termes, donc ces vitesses-là, maintenant, elles s'appellent super... Attends, c'est pas super seed. Je crois que c'est un truc comme ça, ça veut dire super seed DG. Ils ont vraiment créé du marketing, c'est-à-dire que t'as des nœuds, chaque vitesse en dual link, en multilane, va avoir un nom spécifique pour pouvoir le marketer. Ils ont les logos qui sont en cours de création, etc.
Mais est-ce qu'ils ont acheté le nom de domaine qui va avec?
Quand tu arrives à des nommages de ce type, en effet, tu vas finir avec de la Street Fighterisation. Hein, c'est-à-dire que pour faire le top du super, super ultra machin, après, ça devient un peu compliqué.
Bah, là, déjà, USB 3.2 Gen 2x2, ça commence à être pas mal.
Ça cause déjà.
Et même moi, je me suis fait avoir. Hein, parce que j'ai remis 3.2, j'ai pas fait attention. C'était un jeune 2x2. Quoi. Et après, effectivement, si tu cherches 3.2.
Ouais, et puis après, il faut que les vendeurs fassent gaffe dans les caractéristiques quand c'est marqué. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas. Quoi.
A priori, ils vont faire un logo spécifique. C'est ce que je voyais dans leur documentation. Donc, en tout cas, l'USB Consortium a prévu de faire un petit logo spécifique pour ce truc-là.
Tout en disant. C'est pas fini parce qu'apparemment, en USB 4, ils vont rajouter d'autres trucs. D'ailleurs, dans la même release, ils parlent de PC, de tunneling PCIe, donc.
Ouais, mais ça c'est pareil, donc, c'est une bonne chose de tunneling PCIe. Enfin, PCIe Express pour ceux qui n'ont pas le truc.
Ah, mais je dis pas qu'il n'y a pas de.
On pourrait faire passer du PCIe Express dans un câble USB 4, ce qui serait top. Autrement dit, une carte graphique pourrait être dans le câble USB qui vous ferait votre alimentation, qui vous ferait tout. Quoi. Tu rentres chez toi, ton laptop, tu le branches et il a une carte graphique, machin. Après. Il y a deux, trois autres points comme monter la carte graphique à la volée pour l'OS, etc. Enfin, voilà.
Moi, il y a déjà des mecs hein, qui se sont amusés à utiliser les ports M2, par exemple, un laptop pour brancher une carte graphique dessus, parce que comme tu as du PCI qui est routé jusque-là, ils s'amusaient à faire des petits connecteurs. Ouais. Après, voilà, le PCI reste quand même un signal qui est assez sensible, donc c'est pas simple de les sortir sur les grandes distances. C'est pas trop adapté à sortir d'une machine, mais.
Attends, c'est plus circuit de câble
comme ça, USB, blindé partout. Ouais.
On reste dans l'univers des input-output, parce que, donc, à chaque news kernel, on vous parle de I.O. Earring, parce que I.O. Earring, c'est le futur des input-output hyper rapide, hyper cool. Globalement, là, il y a eu une réécriture du cœur d'I.O. Earring dans la 5.12.
Oui, alors je trouve que pareil. Un peu comme les autres, je trouve qu'il y a un tournant assez intéressant sur cette version-là. D'ailleurs, Jens lui-même, dans son tweet, donc l'auteur Jens Saxbow, dans son tweet, indiquait qu'il était super content qu'ils aient réussi enfin à se débarrasser de ça. C'est-à-dire qu'historiquement, bah, Earring avait son lot de kernel thread qui traitait les IO qu'on lui demandait. Le problème, c'est qu'il y avait une forme d'impersonnisation qui devait être réalisée, c'est-à-dire que l'application qui demandait son IO devait la déléguer en fait à un kernel thread, mais qui n'était pas l'application en fait. Et donc il se retrouvait en fait à avoir écrit du code pour essayer de transférer l'ownership, les propriétés on va dire, de l'application sur le kernel thread. Et a priori, ça a créé pas mal de bugs qui ont un peu galéré à débugger. Et donc ce que disait Linus qui parlait de ce sujet-là et qui disait que ça posait un vrai problème parce qu'en gros, ils ont réécrit une bonne partie, et ça fait à peu près 400 lignes hein, qu'on sautait là sur ce commit-là. Ils ont dû réécrire une bonne partie du fonctionnement des kernel threads, etc., pour pouvoir faire ces transferts d'ownership, renvoyer ça après à l'application, etc. Et donc, c'est une bonne milestone pour ça, parce que Earring, dans cette version-là, on sent, on va dire, la maturité qui commence à arriver sur cette interface, parce que, bah, du coup, maintenant, il réutilise complètement, en fait, l'architecture du kernel en tant que tel, et donc, c'est l'application, en fait, qui va avoir son propre... qui va forquer, en fait, elle-même le thread, qui va réaliser l'IO pour elle, et donc bah, en forquant, elle va garder les propriétés de l'application initiale, et donc c'est beaucoup plus intégré dans la stratégie du kernel, et ça évite de dupliquer du code, et donc pour ça, c'est pour ça que Jens disait je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire celui-là, parce qu'on va se débarrasser d'un tout un tas de problèmes qu'on ne voulait pas, donc on sent que l'écriture originale était plus, on va dire, une façon rapide d'obtenir un proof of concept qui marche, qui montre que c'est performant, etc., et que l'idée est bonne, mais qui n'était pas un niveau d'intégration suffisant pour avoir un truc qui soit seamless, c'est-à-dire sans bug, sans problème, on va dire, quand tu commences à taper dessus un peu fort.
Genre ouais, là, ça encore, avec de la prod. C'est encore plus drifté par rapport au fonctionnement d'IPOL, en plus.
Donc ça, c'est chouette. Donc ça redonne, on sent en tout cas que ça redonne une grosse base solide pour Earring à l'intérieur du kernel, et qui va du coup trouver bien plus sa place. Je me suis amusé à relire ce que disait Linus au tout début de l'arrivée de Earring, en disant que de toute façon, l'async, c'était trop compliqué, que ça marcherait jamais, que ce serait une énième interface qui allait crever. Et du coup, en voyant ce type de commit, où vraiment l'intégration commence à vraiment se polisher, à être... Et puis les résultats qui ont été montrés, enfin, on sent vraiment que c'est quelque chose qui va rester là et qui va faire date en termes de performance, sachant que d'autres Cisco ont tendance à partir de l'an.
Ce qui est impressionnant, c'est que IO Ring est arrivé, un des premiers trucs qu'ont convaincu les gens qu'on commence à utiliser, c'est l'énorme gain de perf en passant par là par rapport au Cisco classique notamment. Et quand on voit qu'à chaque release, il dit « Bon, là, du coup, on vient de gagner 20% de perf. » Et puis là, on a encore grappillé 10%. Et à chaque release, il grappille des perfs, alors que c'était déjà le gros atout, un des gros atouts, c'était on explose tout niveau perf, et à chaque release, ça s'améliore encore. C'est...
Ouais, la question, c'est quand va donc arriver le chapeau, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter ?
Il y a encore une possibilité.
La marge,
on peut réécrire IO Ring en Rust. Et...
Après,
j'ai cru que tu allais dire en ce cas-là.
Après, sur le kernel, du coup, là, c'est intéressant de ce que tu disais justement à l'instant, c'est que justement sur le kernel 5.13, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, ça sort un tout petit peu du sujet, mais justement sur le 5.13, ils ont fait quelques modifications et ils ont réussi effectivement encore à gagner des dizaines de pourcents en perf. Donc aujourd'hui, il est rendu à sa milestone, il est rendu à 3 millions d'IOPS par cœur et il veut essayer d'atteindre les 4, il veut s'étendre vers ça. Sachant qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on était en dessous du million d'IOPS par cœur. D'après, au moment où il avait mis le multi-queue scheduler, on était en dessous du million d'IOPS. Hein. Donc, justement, un des premiers achievements du multi-queue, c'était de passer au-delà du million d'IOPS. Donc, on voit le gain, ce que tu disais à l'instant, on voit le gain qui est juste incroyable avec cette techno-là. Donc voilà. Je trouve, en tout cas, sur le 5.12, il y a cette partie-là qui est assez intéressante. Cette réécriture-là montre la maturité dans l'intégration du ring dans le kernel. Avec une base solide pour la suite.
Si on
et
passe à
d'ailleurs,
la...
tu présentais tu en te présentant tout à l'heure, tu parlais de kernel recipes. Il me semble qu'il y a un lien étroit au niveau communautaire entre le lead dev de IO Ring et kernel recipes.
Exactement, ouais. Merci. Oui, clairement, Jens fait partie des gens qui supportent beaucoup kernel recipes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup cette conférence, qui m'a même d'ailleurs une fois avoué que ce serait probablement la seule conférence à laquelle il ira, puisqu'il s'ennuie trop dans les autres en fait. Et il dit là, je m'y retrouve bien et j'ai envie de rester chez vous et je viendrai là avec plaisir. Donc, ça, c'est super chouette d'avoir un mec de ce niveau-là, qui est comme lui, pour ceux qui le connaissent pas, qui est comme le mainteneur de la bloc IO dans le kernel. Et normalement, voilà, donc c'est, on n'a pas pu faire kernel recipe cette année à cause de l'environnement sanitaire, mais c'était le parrain de cette année. Et donc, il restera parrain l'année prochaine. Et donc, ce rôle de parrain, en fait, lui permet d'influencer un peu le programme. C'est-à-dire que d'un côté, kernel recipes, on a un but, c'est de maintenir beaucoup de diversité. C'est-à-dire que à chaque présentation, on change de sujet. Donc, ce qui bouscule pas mal les gens qui sont là. Mais en même temps, en ayant un parrain, le parrain peut choisir des personnes qu'il a reconnues intéressantes ou qu'on fait un travail sympa et les inviter, en fait, à venir présenter leur travail. Donc, c'est souvent des inconnus. C'est un peu le but, c'est de mettre des gens sur la scène en disant ce mec-là, il fait un travail super cool et ça met la lumière dessus. Et donc le mec est super content d'être invité à une conf kernel et en plus par quelqu'un qui est quand même. Moi je l'appelle le patron hein, quand tu vois ce que le mec il arrive à sortir. C'est toujours assez exceptionnel. Donc voilà, ce sera notre parrain de la prochaine édition.
En termes d'utilisation d'IO Ring,
si on comprend bien, il y aura.
Quand je parle, je suis à la bourre, c'est ça?
Pardon, on s'est marché dessus.
Ouais.
On s'est marché dessus.
C'est plus, quand je parle d'utilisation d'IO Ring, vous avez des idées de soft qui s'en servent aujourd'hui déjà extensivement ou pas du tout?
Ah oui, très clairement, les bases de données sont les premiers gros clients. Il hein. y a eu quelques démonstrations là-dessus, hein, peut-être des gens plus compétents que moi sur le sujet ici.
QMU
aussi, enfin. Aujourd'hui, on se rend compte que quasiment tous les logiciels peuvent en tirer parti, en fait. C'est-à-dire que comme on retrouve maintenant dans E-Ring l'implémentation même de syscall, on va dire qu'ils sont un peu plus génériques que juste de faire de l'IO lecture-écriture, en fait, on se retrouve avec tout un tas d'applications qui disent, je peux utiliser le bénéfice que E-Ring a apporté au stockage sur d'autres environnements, et on peut même imaginer, à mon avis, tôt ou tard, une convergence avec le scheduler réseau.
Ouais, et puis il y a un petit truc cool aussi avec IO Ring, c'est le concept de batch, où tu peux dire tu veux faire toutes ces actions en un batch, et s'il y en a une qui fail, et ça va pas essayer de faire les suivantes, et puis voilà. Et ça permet de faire presque des transactions de syscall finalement.
Là, sur les bases de données, sur les premières démonstrations qui avaient été, alors ça date un petit peu, mais sur les premières présentations qui avaient été faites par Jones là-dessus, notamment justement à KR Recipes, il montrait que ce que faisait un MongoDB en 77 heures, ça avait été torché en 38 minutes sur du ring, quoi. Parce que le taux de commit était tellement élevé en fait sur une plateforme à base NVMe que ça a éclaté tout, quoi. On peut réussir vraiment à avoir des gains de performance juste hallucinants, et on risque de le retrouver un peu partout. Alors, pour l'instant, à mon sens, les premiers obvious, c'est tout ce qui est stockage, quoi. Base de données, il y a Ceph aussi, enfin, tous ces moteurs-là, en fait, qui ont besoin d'accéder massivement au stockage, c'est eux qui sont les premiers à sauter dessus. Et je pense qu'ils ne feront plus jamais de machine arrière, quoi. C'est...
Ouais, enfin, stockage et réseau, quoi.
Mais je pense qu'à terme, on va avoir une convergence avec l'équipe réseau, quoi. Là, on a vu une intersection entre IO Ring et BPF. Et tu peux exécuter du BPF depuis IO Ring. Et à mon avis, plus ça va aller, plus les intersections vont être fortes, et on va se retrouver en fait avec un écosystème qui va permettre à tout un tas, on va dire, de couches de se mélanger via U-Ring en fait pour communiquer entre elles.
Et justement, là, tu parles petite transition, tu parles de d'intégration possible avec la stack réseau derrière, et on parlait tout à l'heure justement aussi de nouveautés. Sur le fonctionnement entre IO Ring et les threads et tout ça. Il y a aussi d'autres endroits dans le kernel là qu'on bougeait justement côté réseau et au niveau gestion du threading. C'est ce qui est la NAPI qui est en fait un mécanisme qui permet pour faire de l'IO sur le réseau d'aller directement taper dans le hardware réseau, en fait de faire du poll directement dessus plutôt que d'attendre d'avoir toute une série d'interruptions et tout ça pour avoir les différents signaux qui permettent de faire la communication. Ce mécanisme-là a un petit point faible, c'est que du coup il fonctionne en mode soft IRQ, ce qui veut dire concrètement c'est que ce mécanisme-là il est dans un sous-marin dans son coin et le scheduler il le voit pas en fait, c'est pas du tout dans son scope. Du coup, avantage, boost de perf monstrueux. Inconvénient, ça va bouffer toutes les perfs et les trucs à côté vont pas savoir d'où ça vient parce que le scheduler, ne voyant pas ce truc-là, il va juste voir, j'ai moins de ressources à allouer, du coup, les autres trucs, ils vont morfler, mais il va rien pouvoir y faire. Et là, il y a eu une petite réarchitecture qui permet en fait de faire tourner le polling du coup du hardware réseau comme ça dans un K-thread, du coup dans un thread géré par le kernel, qui du coup, autant le scheduler il n'aura pas accès aux détails de pourquoi est-ce que ça consomme beaucoup, autant il va quand même avoir accès à l'information de il y a ce thread là, il bouffe beaucoup, et il va pouvoir en prendre en compte pour faire pour prendre des meilleures décisions et pas se dire là en fait j'ai que dalle comme ressource, du coup je répartis comme je peux. Il va se rendre compte que alors normalement j'ai tout ça, c'est juste que là il y a un mastodonte qui me bouffe tout, du coup comment est-ce que je répartis mes petits, quoi. Mais au lieu d'être totalement aveugle et d'être tout à l'étroit, il va comprendre pourquoi il est à l'étroit et ça va permettre de faire de prendre des meilleures décisions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Voilà, donc après à voir si dans le futur effectivement ça pourrait s'intégrer sur le genre de restructuration qui ont été faites pour IOU Ring, par exemple, pour gérer de façon encore plus efficace tout ça, c'est...
Sachant que dans U-Ring, il y a déjà une notion de polling aussi, donc si on veut garder un mode polling, il y a un mode polling aussi dans U-Ring, donc ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Et pendant très longtemps, le stockage a été jaloux du réseau, parce que le réseau arrivait à enquiller une très très grosse bande passante avec des faibles latences, ce qui était incapable de faire un système de stockage, on va dire, disque. C'était dit, c'est plutôt le disque qui va réutiliser le travail des scheduleurs réseau, parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'ils enquillent les SSD et puis les NVMe et que ça va pas tenir. Là, maintenant, ça donne l'impression que c'est reparti un peu dans l'autre sens, c'est que maintenant, le storage a repris de l'avance. En tout cas, quelque chose qui est hyper générique et qui arrive à peu près à tout englober. Et donc, la question, c'est à combien de temps, en fait, ils vont vouloir garder deux technos de scheduling, on va dire, de paquets, parce que on se retrouve un peu avec la même problématique de file d'attente. Il faut que j'envoie quelque chose, faut que j'attende une réponse, etc. Et en tout cas, on sent un gros parallélisme dans l'approche des deux. Donc, je suis vraiment très très curieux de voir comment ça va évoluer tout ça.
On passe à la casserade NAPI polling.
C'est ce qu'on vient de dire.
C'est ce qu'on vient de faire.
Justement, j'étais un peu troublé parce que j'ai réorder dans le doc justement parce que ça avait son sens d'en parler avant le
point suivant. Parfait.
C'était parce qu'il a fait une habile transition.
Que tu as applaudi, d'ailleurs.
Il fallait compenser.
J'avoue, j'ai répondu à un message. Désolé pour mon manque de suivi. Ensuite, il y a eu des nouveaux mappings d'idées dans Moons qui ont été sortis. Qui a mis cette news là ? Ça, c'est toi, Marco, je suppose.
C'est moi. En fait, l'idée, c'est que pour l'instant, on pouvait faire un montage en tant qu'un UID. Du coup, ça permettait de dire que le file system était, enfin, de caper un peu les droits par rapport à ce UID et de permettre aussi à un utilisateur non privilégié d'avoir accès à certaines choses. Mais ça avait un certain nombre de limitations. Là, il y a une nouvelle feature qui permet en fait de faire du mapping du UID, un peu comme ce que permettent de faire les namespaces dans les conteneurs, entre autres.
Ouais, exactement.
Et ce qui permet de dire, par exemple, ce montage-là, tout ce qui appartient à l'UID 65535, on va le mapper sur l'ID local 1000, par exemple. Et du coup, les fichiers, ça permet notamment les gens qui ont plusieurs comptes utilisateurs sur plusieurs ordinateurs et qui ont des disques externes, par exemple. Là, sur cet ordinateur-là, je suis ID 1000, j'écris mes fichiers. Sur l'autre ordi, je suis 1002. Pas de bol, j'ai pas les droits dessus quand je monte le disque. Ça va permettre de remapper ça pour que ça soit l'utilisateur correct, et notamment au-delà des disques externes standards.
Mais c'est au niveau du montage et pas au niveau de l'arbre de process, en fait. C'est ça ? Au lieu de le faire dans l'arbre de process, comme quand on fait un conteneur, on le fait directement au niveau du montage.
C'est ça, mais là, il y a le petit bonus que je vois, moi, et il ne me semble pas que dans Kernel Newbies, entre autres, ils en aient parlé, c'est niveau intégration avec SystemD HomeD, en fait. SystemD HomeD, du coup, ça te permet d'avoir tout ton dossier utilisateur, entre autres, imaginons, sur un disque externe, justement, et derrière, via des modules PAM, le compte utilisateur, en fait, ne va pas exister sur le système, il va être totalement transient, et il va être inféré à partir de metadata que SystemD va lire sur le disque. Le truc, c'est que du coup, ça fonctionne avec un concept aussi de... comment ils appellent ça déjà ? Enfin, c'est des users virtuels, en fait, des users qui n'existent pas vraiment sur le système. Et ces users virtuels, ils ont des UID qui sont générés à la volée, en fait. Et donc, pour l'instant, pour pallier à ça, SystemD HomeD, ce qu'il fait, c'est que quand il monte ce qui sert de Home Directory, il va faire un gros showdown récursif pour que tout soit au bon utilisateur. Là, il n'y aura plus besoin de faire ça, il suffira juste de faire le mapping qui va bien. Ça serait une opération atomique, one shot, et gérée de façon transparente par le kernel. Du coup, ça fait moins d'IO, donc ça bousille moins le device, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant.
Est-ce que je confonds, ou est-ce que j'ai vu que c'était aussi... Je confonds, ou j'ai vu que c'était aussi lié à des montages réseau ?
Pour du NFS notamment, je pense, ça peut être pas mal, effectivement, parce que même problème, un utilisateur qui a l'ID 1000 sur un serveur, 1002 sur un autre et tout ça, c'est pratique d'avoir le mapping qui est fait côté client, du coup, du montage, pour que le serveur, lui, voit juste le même ID et puis on n'en parle plus, quoi.
Ce qui pose aucun problème de droit, c'est bien mieux. Ensuite, un nouveau système de protection de la RAM. Alors ça, c'est un truc où la plupart des utilisateurs n'ont pas nécessairement conscience, mais en vrai, la RAM en électronique, c'est un truc qui est assez sensible. C'est-à-dire que c'est très chiant, notamment à router quand vous faites une carte électronique. Vous devez tortiller vos pistes pour qu'elles fassent toutes exactement la même taille pour aller en fait aux barrettes de RAM. Et c'est vraiment très délicat de parler entre le central processor unit et la RAM. Ça pose pas mal de problèmes et il y a souvent des erreurs dans l'écriture de la RAM. Et en fait, le fait de comprendre les erreurs d'inversion qui peuvent avoir eu d'écriture ou de lecture dans la RAM. C'est un sujet en soi qui est dans tous les OS et c'est une problématique. Et là, il y a une nouvelle protection qui s'appelle KFence, avec un petit surnom que SoftKazan. Ouais, Marco.
Ce dont tu parles, la seule manière de gérer le problème, c'est avec du hardware et il faut débarrer de mémoire ECC. Et je comprends pas pourquoi c'est pas standard de facto. Ça devrait juste, devrait plus y avoir de barrettes de RAM non ECC en vrai. Clairement. Ça coûte cher, mais ça devrait. Enfin voilà. Mais il n'y a pas d'autre vraie solution pour détecter ça de façon fiable. La KFence, c'est pas là pour détecter ce genre de problème. Le soft KSAN, c'est moi qui ai donné le petit surnom, c'est pas un surnom officiel du tout. Mais en gros, le KSAN, c'est Kernel Address Sanitizer. C'est un outil qui va permettre de mesurer des heuristiques sur l'utilisation de la mémoire pour détecter des patterns d'accès invalides, en fait, que ça soit du out of bound, j'accède à de la mémoire à laquelle j'ai pas le droit et tout ça. Sauf que c'est quelque chose de très très gourmand. C'est très très efficace, mais c'est très très gourmand et du coup, c'est quelque chose que tu mets en place que sur des tests relativement minimalistes parce que c'est un gouffre à perf et du coup, t'es pas en condition réelle ni rien. Ça permet juste de débugger en fait des trucs pendant que t'es en train de les développer. Et ils se sont dit, c'est cool, ça permet de détecter pas mal d'erreurs, mais ça serait bien un outil où on va faire un petit trade-off. Ça sera moins précis, par contre on aura des perfs natives, ça sera presque invisible niveau perf, pour au moins détecter ne serait-ce qu'une partie des problèmes qui eux vont arriver que sur un vrai workload avec des débits de prod et tout ça, et du coup quelque chose qu'on pourrait activer vraiment sur des kernels de prod, mettre en prod, on verrait pas la différence et ça permettrait d'attraper justement des problèmes, et du coup ils ont créé KFence. Donc kernel electric fence, le E se prononce mais n'est pas présent dans l'acronyme. Et l'idée c'est ça va réserver un tout petit peu de mémoire, c'est genre avec les settings par défaut, ça va être de l'ordre de 2 mégas de mémoire qui va être réservé à ce truc là, du coup c'est quasi imperceptible. Et en gros, ça va être un peu comme un garbage collector. Il va passer tous les un certain temps, sauf que, contrairement à un garbage collector, il va pas tout verrouiller au moment où il passe. C'est juste que c'est du check d'invariant, en fait. Ça va pas être des actions chronophages. C'est vraiment juste, je compare, là, je suis censé avoir tant de mémoire allouée de cette adresse-là à cette adresse-là. Là, j'ai ces pointeurs-là. Ah, celui-là, il est dans une zone qui m'appartient pas, ou là, celui-là, il a l'impression d'avoir plein de place, alors qu'en fait, non. Et ça va juste, via des checks d'invariants comme ça, ça va permettre de détecter des accès out of bounds, du coup, à des zones mémoire non autorisées. Ça va détecter aussi préemptivement des endroits où on aurait fait des doubles free et tout ça, donc libérer plusieurs fois la même mémoire.
Ouais, ce qui pareil cause des problèmes. After free, tout ça.
Et du coup, c'est vraiment une protection qui ne va pas détecter tout, mais qui va avoir quasiment aucun impact niveau perf, et du coup, ça va être safe à mettre en prod pour détecter ne serait-ce qu'une infime partie des vrais problèmes qui vont arriver sur de la vraie prod, en fait. C'est, si tu veux, c'est un peu comme c'est un Blum filter de problèmes mémoire, si tu veux, finalement.
Et c'est loin d'être anodin, parce que quand on voit la quantité de... Enfin, il suffit d'aller chercher dans une base de CVE les use after free et compagnie, même si t'en enlèves qu'un peu, ça fait déjà un sacré paquet.
C'est la source de quasiment toutes les RCE, ouais. Hein, les remote code execution. C'est...
Certes.
Si je dis pas de bêtises, c'est activé par défaut. Hein. Sur un dev config, il me semble que c'est activé par défaut.
C'est très possible, ouais. Et ça a un avantage que justement l'intervalle auquel ce machin-là fait ses checks d'invariants est configurable au runtime, et il suffit de le set à 0 pour le désactiver si on veut le désactiver pour une raison ou une autre, parce que on s'est aperçu qu'en fait il y avait un truc pas prévu qui s'est passé, quoi. Mais voilà, mais c'est très possible qu'il l'ait activé par défaut. Ouais, j'ai pas été vérifier ça, mais...
Non, je viens de vérifier une grosse bêtise, c'est pas par défaut.
Ah. Mais ça, disons que la manière dont c'est vendu, en tout cas, ça a tellement pas d'impact niveau perf que ça a aucun sens de ne pas l'activer finalement vu les problèmes que ça peut détecter. Quoi. C'est ça, c'est de la sécurité gratuite là. C'est
ouais, puis potentiellement même un non plantage gratuit aussi. Non, c'est cool. Mais ça ne corrige pas les problèmes électriques auxquels je faisais par référence. Mais c'est bien quand même qu'il y ait une électrique fence. Le point suivant, ça parle de graphique dans Linux, donc on est moins sur le côté serveur. C'est le support d'un truc qui est une fonctionnalité de plusieurs types de drivers graphiques et de cartes graphiques qui sont les FreeSync chez AMD ou l'Adaptive Sync chez Intel. C'est un truc qu'ils appellent le VRR, le Variable Refresh Rate. Qui a mis cette news?
Alors, c'est moi qui l'ai ajouté. Alors j'avoue que c'est un sujet que je maîtrise pas énormément, à part les quelques fois où je me suis amusé à faire un peu de jeu. J'ai vu les options et ainsi de suite. J'avais pas spécialement suivi. Et c'est intimement lié au matériel. Hein. C'est-à-dire que, en gros, il y a le V-Sync qui permet. En fait, on a les écrans qui, en gros, peuvent afficher des images à une fréquence qui est fixe. On va dire 60 Hz, un certain million de certaines quantités d'images par fréquence de temps, par intervalle de temps. Et forcément, les cartes graphiques, elles, ne produisent pas des images à cette fréquence régulière. Donc, on va avoir des pics et des redescentes, et c'est là qu'on va avoir du coup du lag, à défaut de meilleurs termes. Enfin, il y a des meilleurs termes, mais on a mis des liens dans les show notes si vous voulez aller voir plus de détails là-dessus. Et pour éviter tous ces problèmes de désynchro, donc il y a eu du V-Sync qui est en fait historiquement forcé. Donc on disait par exemple, si un écran supportait 60 Hz, bah la carte va pas produire plus de 60 Hz d'image en fait. Sauf que bah quand ça descend en dessous, du coup on a quand même des problèmes. Et on a fait ensuite des systèmes plus adaptatifs. Mais ça s'est fait avec des normes de matériel. C'est-à-dire que c'est des écrans qui supportaient ces normes. Alors chez Nvidia, il y a eu G-Sync, enfin G-Sync avec un G, je le dis à la française, G-Sync. Et il y a eu FreeSync chez AMD. Et plus récemment, chez Intel, depuis qu'ils se mettent à refaire des chipsets avec plus de capacité graphique, à renforcer le truc, on a l'Adaptive Sync. Et donc, alors là, pour le coup, c'est dans le kernel, on a AMD et Intel, parce qu'ils contribuent pas mal leurs drivers au kernel, qui font des mises à jour là-dessus. Pour l'instant, malheureusement, bah, chez Nvidia, ça se fait toujours par les pilotes Nvidia, même s'ils commencent doucement à apporter des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois FreeSync, Adaptive Sync et compagnie, maintenant, ce sont des choses qui peuvent, avec lesquelles les écrans peuvent être compatibles sans avoir été certifiés d'un point de vue hardware. Donc, on peut avoir un écran qui le supporte sans être au top. Alors après, on parlait des normes USB tout à l'heure. Je suis allé voir, en fait, on a du FreeSync, puis du FreeSync Premium, puis du FreeSync Premium Pro. Pareil pour G-Sync, pour... Et voilà, mais c'est assez intéressant. Puis c'est intéressant de regarder les modes de fonctionnement et ce que ça apporte. Après, je pense que pour l'usage desktop, c'est pas mal aussi. Par contre, c'est vraiment dédié plutôt au gaming ou à des choses qui ont vraiment des soucis de fréquence haute d'affichage, on va dire. Mais ça fait pas de mal pour globalement le support des desktops, surtout quand on a des écrans en 4K. Ou des écrans qui ont des images assez lourdes à produire maintenant, ça peut faire en effet un peu ramer la carte graphique. Et c'est vrai que bon, à la limite, le stuttering de l'image quand on fait du LibreOffice, c'est peut-être pas le truc le plus important. Mais en tout cas, ça va améliorer la stabilité globale de l'OS, quoi.
Pour du embedded sur des gros écrans publicitaires ou pour faire des grosses installations vidéo de scénographie, je pense que ça peut avoir un sacré impact. C'est sur de la scéno, où t'as des tas de moments où t'as une partie de ton écran qui glande de rien et des bouts qui bougent qui sont plus petits, ça peut avoir des impacts monumentaux.
Ouais. Et ben, après, il faut voir comment ça va bouger côté Nvidia. Parce que là, Nvidia, qui pour l'instant avait pas trop fait de boulot, ont commencé à mettre quelques personnes à bosser par exemple sur Wayland. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont se mettre à remonter quelque chose dans le kernel. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. On est toujours sur nouveau, qui est du reverse. Si je dis pas de bêtises, un reverse engineering, en gros, hein, de ce que fait Nvidia. Mais bon, si progressivement ils commencent à amener des gens là-dedans, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, moi, je savais pas du tout. J'étais passé complètement à côté de cette guerre de normes. Et ça converge doucement vers quelque chose qui fonctionne un peu pareil partout, avec évidemment des spécificités de driver, hein, mais c'est intéressant.
Vaste sujet que le sujet des drivers Nvidia. Vaste sujet. Vaste sujet qui, pour l'instant, c'était quand même un sujet où pendant des années, on a considéré que c'était un problème qu'on avait sur les laptops et on s'en bat les steaks, tu vois, puis ben, c'est pas très grave. Et d'un seul coup, tous les gros administrateurs de serveurs, on s'est retrouvé avec du CUDA pour faire du machine learning sur les bécanes, et le CUDA, ça veut dire driver, NVIDIA propriétaire. Et là, du coup, tous les gros gestionnaires de Linux, on a fait genre, ah, c'est très amusant cette histoire. On n'avait pas du tout prévu de se retrouver avec ça. Je sais pas si c'est un sujet que vous avez rencontré, vous, dans vos 50 000 bécanes.
Sur la partie CUDA, oui, on en a. On avait des discussions aussi avec NVIDIA sur ce sujet-là. NVIDIA était aussi rendu à faire un système de delivery par container pour arrêter de s'embêter avec ça. Alors, pas forcément sur la partie driver, mais sur la partie applicative où ils en avaient marre de gérer les 8000 versions avec des dépenses de partout, etc. Et donc, ils en étaient rendus à un point où ils disaient on va foutre tout ça dans un container et puis roule ma poule. Je suis pas forcément très fan de l'approche parce que ça fait une grosse boîte noire où tu maîtrises plus rien et puis bah, tu vas tourner avec une version de container toute ta vie parce qu'elle fonctionne. Donc oui, après l'intégration des drivers Nvidia, bah c'est toujours la découverte. Hein. Quand tu dumpes le kernel, bah t'as une chance sur pas mal que bah ton driver Nvidia il se mette à décoller un peu ou ça supporte pas encore parce que t'as un kernel un peu trop récent et que le driver il est pas encore à jour, il a pas été bumpé, et puis ils ont un cycle de release qui fait que oui mais tu l'auras dans 3 mois. Ouais, le kernel c'est maintenant quoi, c'est pas dans 3 mois. Donc les impératifs de sécurité que tu peux avoir sur une plateforme versus la dispo d'un driver propriétaire comme ça. Bah ouais, c'est toujours un peu compliqué à gérer.
Et puis chez Clever, ça a été le fruit d'une immense frustration, parce que chez Clever, jusqu'au driver NVIDIA, tout nos kernels étaient monolithiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de module dans le kernel, tout était compilé dedans, et du coup, pas de gestion de sortie de module, d'insertion de module, de download de module, etc. Alors tout était dedans, et donc du coup, bah, on avait viré toute une partie des problèmes sécuritaires, puis ça allait beaucoup plus vite, et, enfin bref, on était très contents avec notre kernel monolithique. Et le moment où on doit supporter CUDA, on fait « Ah, merde !» Parce que du coup, le driver NVIDIA venant compiler binaire, bah, t'es obligé de l'insérer comme un module. Tu n'as pas le choix de le compiler statique à l'intérieur de ton kernel en embedded. Et ça, c'est la grande frustration. Enfin, en tout cas, chez nous, ça a été la grande frustration.
Ouais, nous, on n'a pas ce souci-là, parce qu'on reste avec des kernels modules. Certes limités, mais on reste en kernel module. Donc, on n'a pas eu cette contrainte.
On se fait un petit tour rapide des news Virtu. News Virtu, la première news, c'est le TDP MMU dans KVM. Alors ça, j'avoue, j'ai rien compris. TDP MMU.
Mais c'est alors... lui qui l'a rajouté.
Ça doit être important, il y a des chiés de commit de partout. Oui, désolé, mon ordinateur sous Linux, ça fait un moment, il aime bien hurler comme ça.
TDP MMU, c'est pas une nouveauté de la 5.12, c'est une nouveauté de la 5.10 en fait, qui est TDP, c'est Two Dimensional Pages, MMU, c'est Memory Management Unit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gestion des pages de mémoire, au lieu d'être fait dans un tableau qu'on parcourt de façon séquentielle, c'est fait dans un tableau à deux dimensions, du coup un peu à type matrice, et qui permet du coup d'appliquer toutes les optimisations qu'on peut connaître sur justement des matrices au lieu de simples tableaux basiques. Donc qu'est-ce que c'est concrètement la nouveauté dans la 5.12? C'est du traitement parallèle au-dessus de ça. Du coup, on parallélise quelque chose à deux dimensions, ça fait du sens. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'être à deux dimensions si c'est pas pour paralléliser derrière, justement. Donc je pense que dans la 5.10, c'était surtout du travail préparatoire pour amener ça. Mais ça, c'est dans KVM, on l'a pas précisé, mais du coup dans KVM, maintenant, il peut traiter de façon beaucoup plus efficace différentes plages mémoire en parallèle. Il est à noter que ça n'a pas été contribué par n'importe qui. Il y a des gens qui sont en mode oui, voilà, nous on fait des conteneurs, on fait du Kubernetes. D'ailleurs, c'est nous qui avons écrit Kubernetes, tout ça. Et les gens les croient et se mettent à utiliser Kubernetes. Bah, en fait, ces gens-là, ils contribuent beaucoup dans KVM parce qu'en fait, ils font du KVM sur de la vraie prod. Voilà. C'était mon petit rant au passage.
Tu veux dire que les gens de Google ne tourneraient pas sur Kubernetes chez eux? Non.
Étonnant, non?
Oh, mais comme je suis mortifié. Tu veux dire que Kubernetes serait un outil de DevRel? Petit point virtuel, un petit truc mignon. Les Virtuo Input, donc Virtuo, c'est l'interface de driver qui permet de faire fonctionner plus facilement les drivers de l'hôte et les drivers du guest ensemble. Donc c'est toute la partie de Virtuo, en fait, c'est le bus de communication driver à driver, si vous préférez, qui vous permet d'avoir un driver très simple dans le guest et de filer la main directement à l'hôte de façon simple. Si je schématise un peu ce qui est Virtuo, et dans le Virtuo Input, donc qui gère tout ce qui est gestion des ordres virtualisés de d'interface IHM, donc clavier, souris, globalement, il y a l'apparition du multitouch. Alors ça peut avoir l'air lol, mais en fait ça a des impacts extrêmement concrets, notamment je pense que ça en aura des vrais pour les développeurs Android, vu que de plus en plus on virtualise Android dans du Linux quand on fait du dev, et que ça va permettre de jouer en multitouch facilement dans du dev Android. Et moi je pense aux développeurs de jeux vidéo Android qui devraient gagner de la perf monstrueuse quand ils font du test là-dessus, et que ça pourrait devenir assez cool. Donc ça, je pense que là il y a pas loin 2-3 trucs vraiment pratiques pour les développeurs qui vont apparaître. Si vous avez une réaction sur ce point-là.
Je sais pas si c'est là-dessus, mais j'ai cru entendre que ça intéressait aussi beaucoup des gens qui font des plateformes de streaming de jeux mobiles, notamment côté asiatique, où il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux streaming mobiles, où du coup le support multitouch, c'est pas anodin, quoi, quand tu veux streamer un jeu mobile complet. Donc c'est vraiment intéressant pour ça, je pense. Clairement, au départ, je pensais que c'était lié, ouais. Parce que un autre truc, je pensais que c'était peut-être lié à un autre truc dont on n'a pas forcément, je sais pas si on l'a noté d'ailleurs, qui est l'amélioration du support de Surface ou de plateformes comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment lié à ça, parce que là, c'est des côtés virtuels. Ouais.
En fait, pour ceux qui connaissent Shadow, il y a des gens qui font du Shadow-like, mais sur des grosses interfaces Android bien bourrines pour jouer. Et en fait, t'as un portable de merde, mais en fait, tu streams. Derrière un PC en fait qui a un serveur avec des cartes graphiques et machin, et là du coup t'as moyen de jouer dessus, et là je pense qu'effectivement ils vont y gagner beaucoup. Tu disais Erwan, avant que je te coupe, j'ai l'impression que je suis légèrement décalé de vous en permanence, ce qui fait que mes interventions sont un peu cheloues des fois, j'ai l'impression.
Un petit aparté sur la partie input device, alors qui est pas lié directement à KVM mais qui est lié au kernel. Petit cocorico d'ailleurs, le mainteneur de la partie input device du kernel Linux est un Français. C'est Benjamin Tissoir qui travaille chez Red Hat, qui a récupéré le bébé il n'y a pas très longtemps et qui devrait un jour nous proposer une présentation assez rigolote. Parce que les input device, on voit toujours un peu ça comme bon, ça marche quoi. Enfin, tu vois, clavier souris, c'est bon quoi. Et a priori, cette presse devrait être assez intéressante. C'est comment je vais faire pour pas péter le keyboard ou la mousse de Linus Torvald. Et en fait, c'est assez rigolo quand ils présentent un peu comment ça marche, les input devices, et la quantité de hacks qu'ils doivent mettre en place pour que ça marche, notamment le multitouch. Il m'avait raconté un petit truc, c'est que le multitouch, la plupart des multitouch sur un laptop, ça passe sur du PS2, et pas par l'USB. C'est-à-dire qu'en fait, ton chip, ton pad qui est sur ton ordi, il a deux sorties, une sortie USB et une sortie PS2, et la seule vraiment qui marche et qui est vraiment fonctionnelle, etc., c'est la PS2. Sauf que le PS2 n'a jamais été conçu pour faire du multitouch. Donc il y a tout un certain nombre de hacks qui sont mis par-dessus pour réussir à faire passer du multitouch par-dessus du PS2. Et en fonction des périphériques que tu as et des versions, etc., tu as une chier de hacks pour que ça tombe en marche. Et donc voilà. Donc la partie input device, ça paraît toujours un peu comme ça, des news comme ça, un peu anodines, en disant, tiens, on a rajouté du multitouch ou des machins, des trucs. Et en fait, derrière le rideau, en fait, c'est vraiment, vraiment chialé, quoi.
C'est très intéressant ça, ce que tu viens de dire, parce que j'ai un vieux laptop avec un touchpad qui fonctionne plus, et j'ai encore des câbles PS2 qui traînent. Ça.
Mais ça, en fait, c'est dans le built-in du truc, en fait. Bien sûr. Dans le routage, dans ta machine, en fait, c'est routé en PS2. Ouais, petite aparté sur les input devices, mais c'est vraiment passionnant. Je vous invite à aller voir ses conférences, à chaque fois, c'est vraiment super intéressant. ce que tu peux faire un input device.
Faut surtout que j'aille pleurer auprès de lui parce que j'ai un vrai problème, moi, de touchpad sur mon Lenovo. Le rendu est dégueulasse, j'ai mon pointeur qui saute. Ouais.
Et du coup, vu qu'on parle de PS2, est-ce que c'est le moment pour faire une transition PS2 et puis PS5 et Nintendo 64 ou pas ?
Magnifique, magnifique. Quel talent.
Écoute, pourquoi pas, parce qu'en effet, c'est incroyablement bien amené. Hein. Bon, en soi, c'est anecdotique. Alors évidemment, sauf pour ceux qui utilisent une PS5 comme contrôleur pour jouer ou pour autre chose, ou pour faire des présentations, une manette PS5, ou qui ont pu commander que des manettes PS5 en attendant d'avoir un jour une PS5, tu vois, un peu fétichiste comme ça. Du coup, ils veulent pouvoir l'utiliser pour quelque chose. Donc il y a le support de la DualSense qui est là. Donc c'est un peu du taunting pour les gens qui n'ont pas encore de PS5. Et en même temps arrive exactement en timely fashion la concurrence Nintendo avec le support de la plateforme Nintendo 64. On avait, il me semble, déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent. Et donc là il y a le support de tout le hardware, accessoires et co. Par contre, c'est pas encore vraiment tout à fait utilisable. Mais théoriquement, on n'en est pas à pouvoir faire tourner sur une Nintendo 64 un OS Linux. Mais on pourrait, théoriquement. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de démo fonctionnelle complète. Quoi.
Ça fait quelques releases qu'ils ajoutent progressivement des bouts de la N64 quand même. On voit où ils veulent venir. Hein. C'est
quand même très surprenant. Hein. Je pense qu'il y a un truc derrière qui doit être lié à l'IO Uring, parce que ça a l'air de venir en même temps.
C'est vachement plus sympa quand même qu'un Raspberry Pi, quoi. Une petite N64, ça prend moins de place. Et...
non, puis la manette, quoi.
La dernière news virtu que je vois, c'est je découvre, puisque le Linux à présent le support, le projet ARCN, qui est un système de virtu qui a été ajouté. Donc il y a un support, et le projet ARCN, en fait, c'est un truc de virtu pour faire de l'embedded. Donc c'est un truc de virtu très light, qui a été pensé pour pouvoir lancer, par exemple, une interface graphique dans un coin, et de l'autre côté, un kernel RT, donc soit un Linux RT, mais ça peut être aussi un Zephyr ou un truc comme ça, qui, par exemple, gère les contrôleurs d'une voiture, et de l'autre côté, avoir dans une espèce de... Oui, c'est ACRN, effectivement, mes excuses, Linux...
D'ailleurs, vu leur logo, ça doit se dire Acorn, à mon avis.
Ouais, ça doit être Acorn. Et en fait, ça leur permet de balancer un truc qui est par exemple, toute une interface graphique de management de l'audio, du multimédia de la voiture, dans une virtu, avec une vraie isolation. Genre, tu peux planter la partie multimédia, mais garder le truc qui gère tes freins en vie. Ce qui me paraît une bonne idée, dans l'absolu. Du coup, je connaissais pas du tout ce projet. J'ai trouvé ça assez intéressant. S'il y a des gens qui font de l'embedded qui s'en servaient, ça m'intéresse. Enfin,
c'est d'autant plus intéressant quand t'es, par exemple, dans un avion, si le truc qui te lit ton film crash, si ça pouvait éviter de faire crasher l'avion. C'est...
Ouais, ou juste qu'il fasse pas crasher l'interface du mec d'à côté, quoi. Parce que ça peut être ça aussi, tu sais. Il y a des avions dans lesquels c'est pas un device par truc, c'est juste du... C'est du multiscreen, quoi.
Donc, d'ailleurs, Cocorico, on a été les premiers, c'est des Français qui ont fait voler le premier système distribué dans un avion pour les passagers. Avec un vrai écran, un vrai CPU et un vrai storage par écran.
Mais c'est vrai que de la virtu et de l'isolation dans de l'embedded sur des choses très précises, c'est intéressant comme idée, en tout cas.
Surtout pour réussir à faire un système qui reste toujours en veille. Va continuer à regarder si ton système sous-jacent fonctionne et pouvoir éventuellement redémarrer le système sous-jacent sans avoir besoin de faire une manœuvre électrique ou ce genre de choses, tu vois. Et là, par exemple, typiquement, dans Maker, ça m'aurait été à un moment relativement utile, ne serait-ce que pour mettre au point une procédure de live mise à jour ou un truc comme ça, un peu bien pensé. Tu vois, ça pourrait être hyper utile, tu vois. Je pense là, notamment au Maker, ça pourrait être hyper utile pour gérer ces mises à jour de façon hyper seamless et hyper propre. Le projet m'a donné envie de creuser, en tout cas. Donc, s'il y a des gens qui le connaissent, c'est cool. Et dernière grosse news Linux que
pas,
je voyais.
N'hésitez pas à commenter.
C'est ça. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus.
C'est ça. Des pouces bleus.
Non, l'autre point, c'est donc OBS, le truc de streamer là qui permet de faire du mélangeur de flux vidéo, supporte enfin Wayland. Et c'est la grande news qui a été basée sur Foronix. A priori, c'est plus ou moins l'équipe de Pipewire qui a fait ça, si j'ai bien compris. Mais globalement, alors, voilà.
C'est en fait, ça passe par un truc. C'est il y a des gens il y a quelques années maintenant qui ont créé un truc qui s'appelait XDG Desktop, qui était la vocation du XDG Desktop, c'était d'être le Docker des applications desktop graphiques et tout ça. Le projet a évolué, s'est standardisé et tout, et s'est renommé au passage en Flatpak. Du coup, Ubuntu s'est empressé de faire sa propre version proprio dans son coin qui s'appelle Snap et qui est compatible qu'avec Ubuntu. Bref, toujours est-il que Flatpak est un écosystème. Ouais. Mais du coup, ouais, Flatpak est un système un peu à la Docker avec des layers d'OS et tout ça pour faire tourner, mais qui est destiné à faire tourner des apps graphiques. Et c'est plus ou moins sandboxé, mais du coup, tu as envie que ça ait quand même accès à certains trucs de ton système principal, notamment, par exemple, à ton serveur graphique, au pif. Et du coup, il y a de la communication qui se fait entre la sandbox et l'extérieur de la sandbox via ce qu'ils appellent des portals, qui sont des logiciels, en fait, qui sont là pour faire le passe-plat entre les deux et autoriser ou non les accès. Et ça passe notamment par un des portals qui ont été faits pour Flatpak à la base, pour pouvoir accéder correctement à ce qu'il faut dans Wayland et tout ça.
Et paradoxalement, alors là, en mode out of the box, j'ai fait le test sur une Fedora 34 récente où ils annonçaient ce support-là, et quand tu prends l'OBS Flatpak, ça ne fonctionne pas. En revanche, si tu prends le package natif, package RPM Flatpak, là, ça fonctionne parce qu'en fait, je pense que ça doit, il doit y avoir le doublon en fait de Portal, si tu veux, qui doit avoir un truc à reconfigurer. Et en effet, j'ai regardé, il y a quelque chose à configurer pour que ça fonctionne. Mais en effet, ça met un peu la grouille du coup. Mais confirmé, OBS Wayland fonctionne bien, ouais. Enfin.
Le débat X ou Eland va peut-être finir par se rétracter. Encore un truc à dire sur la 5.12
Progressivement, oui.
Ah, vas-y, je t'en prie.
Ouais, juste sur ce point-là, justement, mais je sais plus si on en a déjà parlé, mais justement, entre OBS ou Eland, je sais qu'on en a parlé par ailleurs, mais ça va progressivement s'améliorer. Justement, ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'amélioration notamment du support Wayland pour NVIDIA et du fait qu'on va pouvoir progressivement démarrer certaines applications en utilisant l'une ou l'autre carte à l'intérieur d'une session Wayland. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si c'est complètement...
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, c'est ça. Donc après, encore une fois, alors c'est déjà le cas quand on est comme Marco et qu'on compile son kernel et qu'on utilise Exerbo et qu'on choisit ces packages dans les distros mainstream, même celles qui suivent de près, c'est pas encore complètement intégré. Ça viendra dans les releases à venir au fil de l'eau, au fur et à mesure que les applications vont le supporter aussi ou que l'interface permettra d'invoquer cette fonctionnalité, quoi. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont deux cartes sur leur système et parfois une qui sert à rien ou alors qui doivent sortir de la session et passer sous X pour faire quelque chose.
Ok, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc à ajouter sur la 5.12 ou est-ce qu'on passe au new web?
Non, on peut faire un tout petit détour. Alors on vous a un peu épargné... la liste de toutes les nouvelles cartes embedded qui ont été rajoutées dans le kernel. Mais un petit sujet un peu en relation qui est intéressant. Il y a un nouveau framework qui a été émergé dans le 5.12 qui s'appelle le DTPM pour Dynamic Thermal Power Management. Qui est en fait pour l'instant à l'état de framework, donc ça n'aura pas un impact demain matin sur vos machines. Mais qui va permettre en fait depuis le user space, via les API du kernel, de définir un arbre en fait de dépendance des composants et de leur consommation électrique Ce qui va après, une fois que les drivers en fait se seront enregistrés sur ce framework là, permettra en fait au user space de contrôler en fait la dissipation thermique en attribuant en fait des quotas en fait de consommation par composant avec un système d'héritage en disant bah si en gros on met un système de poids en disant dans cet arbre là bah le père il consomme tant et les fils peuvent consommer 20% du père et si je réduis le budget du père bah le budget est réduit de manière on va dire linéaire sur ses fils, ce qui permettra en fait à des applicatifs de pouvoir faire la corrélation entre des indicateurs de consommation, de température d'une plateforme et la régulation thermique via la consommation. Donc voilà, c'est à l'état de framework, mais il est implémenté, donc maintenant il ne reste plus que au driver de s'enregistrer dessus pour permettre la manipulation et l'amélioration des consommations, la maîtrise plutôt. Parce que ça ne va pas améliorer la consommation, ça va plutôt améliorer la maîtrise qu'on en a pour réguler la thermique, notamment des systèmes embarqués. D'ailleurs, il est fait référence pas mal dans la présentation de ce framework-là à un aspect safety, en fait, qu'on peut avoir dans les systèmes embarqués. C'est ce qu'on appelle en général le touch temp ou le skin temp sur les périphériques, c'est-à-dire qu'en fonction des matériaux sur lesquels par exemple, on avait ça nous dans l'aéronautique. En fonction du matériau dans lequel tu vas embarquer ton système, la température de contact avec un humain va varier. Par exemple, si c'est du métal, ce sera plus bas que si c'est sur du verre ou du plastique. Parce que le ressenti que toi tu auras sera bien plus important, en fait. Donc, si tu touches un métal qui est tiède, tu as l'impression qu'il est plus chaud qu'un plastique qui est très chaud, par exemple. Et donc, pour pouvoir, en fait, gérer cette partie safety dans les équipements embarqués qui sont au contact des humains, on a besoin d'avoir une grosse maîtrise, en fait, de la thermique. Donc j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait beaucoup ce framework-là a beaucoup été amené sur cet angle-là en fait, de pouvoir maîtriser l'aspect sécurité vis-à-vis des utilisateurs.
NewsWeb, allez, la NewsWeb par excellence, sortie de Bootstrap 5, le fameux framework CSS. Ça fait des années que Bootstrap 4 était up. J'ai pas l'impression que dans Bootstrap 5 on ajoute beaucoup de choses. C'est un remix de certains composants, mais il n'y a pas tellement de nouveaux composants. C'est surtout une grosse mise à jour du code. Ils ont viré plein de vieux browsers en support. Enfin, c'est une release un mode un peu clean-up, j'ai l'impression. Et ils n'ont plus jQuery dans les dépendances. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à en dire.
Non, je pense que tu viens de dire l'essentiel, en tout cas sur ce qu'on pourrait dire dans un épisode pas dédié UI UX avec Uber. Qui dirait qu'il faut probablement pas utiliser Bootstrap d'ailleurs, au passage. Non, mais Bootstrap, après, pour des gens qui ont vraiment ni le temps de s'y intéresser ni quoi que ce soit, c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez facile à utiliser. Mais c'est vrai que le jQuery commençait à être un sérieux boulet à l'intégration avec quoi que ce soit d'autre d'un peu récent. Et en termes de failles de sécurité, ça commençait à se poser là un peu aussi.
Ouais, après, Bootstrap, donc, voilà. Ça dépend ce que tu fais aussi. Mais si tu fais un soft interne et que tu veux qu'il n'ait pas l'air trop moche et que tu es en rapide et machin... Parce qu'il y a une différence fondamentale entre une application, tu vois, compliquée en front et faire une presse rapide d'un truc pas trop moche pour shipper un tool en interne rapide.
Quoi. Ouais, puis ça te fait quelque chose de normatif où t'es pas obligé de te former non plus gigantesquement. Quoi.
Moi, je passe mon tour, hein. JS, tout ça. C'est bien.
Alors là, c'est plutôt du CSS. Hein.
Oui, enfin, tout ce qui est WebRI, en fait, c'est pas...
Fine. Eh ben, j'écoute tes envies et nous retournons dans le bar. Globalement, avec l'écosystème des containers, il y a eu plein de normes, les normes d'Open Container, plein de choses qui se sont boutées autour de Docker et en alternative à Docker. Il y a Podman, le plus ou moins bien connu système qui en fait vous permet d'avoir quelque chose de proche de la commande Docker. Mais sans utiliser de démon, hein, puisque ça utilise systemd de façon massive. Et là, il y a un petit nouveau qui se pointe, écrit en Rust, un Yuki.
Non, non, mais ça n'utilisait pas systemd de façon massive Podman, mais ça s'intègre relativement bien avec.
C'est ça, en fait, Docker utilise runc, Podman utilise crun,
ouais.
Qui est une alternative à runc, et crun supportait ces groupes V2 quelques années avant Run C, et c'est pour ça que ça s'intégrait mieux avec Systemd.
C'est ça. Ça s'intègre naturellement dedans, mais ça l'utilise pas. Les deux utilisent des choses communes, en fait.
D'accord.
Et donc, il est acquis, ce gestionnaire de conteneurs en Rust.
Ce Yuki.
C'est ça.
Il y a quelqu'un qui s'est amusé à réécrire du coup une alternative, pas à Docker et Podman, mais plus à Kusansu, donc à une alternative à Run C et CRun, qu'il a appelé Yuki, et qui a écrit en Rust, qui pour l'instant c'est minimaliste, ça supporte que les C groupes V1 notamment pour l'instant. C'est loin d'être feature complete, mais ça commence à passer la test suite des open containers, a priori. Donc, c'est...
Ouais, ça passe la ça première test suite, ouais. Ça passe la première, ouais. Par contre, c'est clair que ça ne permet pas des scénarios compliqués que ces groupes V2 pour l'instant. Mais ça va venir vite, parce que c'est quelque chose qui existe dans l'écosystème Rust. Donc...
Par contre, c'est pas cool, parce que là, j'ai la chanson de Gotenner dans la tête. Hein. C'est juste une horreur. Pourquoi avoir choisi ce nom, quoi?
La personne
qui a écrit ça... Je vais rechercher pour ceux qui connaissent pas. Hein. Yuki Gotenner. Hein,
un Gotenner, hein. Mon préféré. Génie du slogan de la pub.
Ouais. Il fait des choses amusantes, la personne... Enfin, la personne qui a écrit Yuki, il fait des choses amusantes, en tout cas. Je sais pas qui c'est, mais... Son compte GitHub a 2-3 trucs vraiment marrants. Bref, les gens du low level font de plus en plus de Rust et le Rust va tout manger. Ce qui me permet de vous introduire directement à la news suivante. Chez Microsoft, ils ont annoncé la version 0.9 de Rust for Windows. Rust for Windows, on ne parle pas de faire tourner Rust sur Windows. Ça, c'est l'équipe Rust qui le fait et ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. On parle de vraiment le binding de librairie qui permet de taper dans le système Windows depuis Rust. Donc, le truc qui permet, par exemple, de faire des systèmes Win32 fenêtres, de parler via COM, enfin, le truc qui vous permet, au lieu d'écrire du C, d'écrire du Rust pour faire du graphique. Et je rappelle que Microsoft a fait un gros pledge en disant, bah, à partir de maintenant, tout le low level chez nous, c'est du Rust. Et manifestement, ils rattrapent à toute vitesse le retard qu'ils avaient sur la partie... C++ un peu low level pour le fournir sur Windows avec une crate Windows qui build dans Linux en utilisant le Win32 de Wine. Et ça, j'ai trouvé que c'était beau parce que c'est les mecs de Microsoft qui, dans la release, te disent « By the way, la Window Crate est build dans Linux. » Ah oui, c'est beau, non?
Poupée russe.
Vous aviez peut-être déjà parlé par le passé de l'intégration de Rust dans le kernel.
On en a parlé vite fait, mais tu peux...
On a évoqué pour l'instant seulement. On n'est pas allé en profondeur encore. C'était pas... Je sais plus.
On avait évoqué le fait que ça avait été discuté et que Linus Torvald avait évoqué le fait qu'il était plus contre ou pas contre. Mais pas plus que ça, je crois.
Ouais, parce que ça avance bien, là. Ils sont en train de... D'ailleurs, je crois que ça a été mergé. Hein,
c'est mergé, là.
Ouais, il me semble, et c'est poussé par Google, notamment, d'ailleurs. C'est... Pour l'instant, c'est pas encore utilisé, vraiment, mais il me semble que ça a été mergé. Je sais pas si c'est dans la 5.12 ou pas, mais c'est au moins dans Linux Next, ouais.
Ouais, c'est dans Next, là, je crois. C'est pas encore... Ce sera pour la 5.13. Hein.
Oui, c'est pas cette version-là dans laquelle il y a officiellement les premières lignes de Rust, c'est dans la prochaine. Enfin, probablement dans la prochaine.
Du coup, au prochain, tu pourras faire pas Rust sur Windows, mais Rust dans le kernel Linux. Ça te fera un petit parallèle.
Bon, le compilateur... Non,
on pourra faire Rust dans le noyau Linux, oui. Sur WSL, dans un Hyper-V qui tourne sur du Linux, et on sera bien.
C'est ça.
On trigger ça avec une manette Nintendo 64.
Toujours est-il que du coup vous pouvez coder des interfaces Win32 natives là-dessus. La news suivante, c'est que
tant qu'on est sur les Windows, Linux, Rust, tout ça et tout, il y a aussi Windows qui sorti de nulle part, a sorti BPF for Windows ce mois-ci, mais...
Ouais, ouais.
Oui.
Dans le genre convergence aussi, ouais, ça se pose là, ça.
Avec du coup, Brendan Gregg qui disait que ça allait être challenge pour eux, en fait, de plus penser que Linux dans les features, et qu'il va falloir qu'il... le fait qu'il y ait plusieurs maintenant kernels qui le supportent, de devoir penser les choses un peu différemment. Par contre, il indiquait que je trouvais ça assez intéressant. Du coup, ça donne un point de départ aussi pour les développeurs qui utilisent BPF, de se dire qu'il y aura au moins un point commun dans les implémentations, et donc ce qui marche déjà sur BPF Linux devra marcher sur BPF Windows. Ce qui veut dire que ça fait encore un sacré trou dans la pomme. Parce que si tu arrives avec ton applicatif BPF Linux, enfin, type Linux sur un Windows, ça va encore réduire, on va dire, enfin, je trouve que ça réduit encore l'empreinte du Windows spécifique, quoi. C'est-à-dire que tu seras vraiment sur quelque chose de plus en plus ouvert, et on va pouvoir, du coup, se dire que le Windows sera un kernel comme un autre, et puis on pourra, en fonction des applicatifs que tu as à faire tourner, soit utiliser un kernel Linux, soit un kernel Windows, soit les deux, soit... Enfin, cette hybridation, elle est assez intéressante. Et en tout cas, voilà, BPF, là, c'est...
Puis après, je pense que même pour eux, pour des outils de gestion, de surveillance de performance, de choses qui tournent dans... Des payloads qui tournent dans, et dans Windows et dans Linux, ou ainsi de suite, je pense qu'ils ont tout intérêt à capitaliser sur le fait d'avoir des outils assez communs à ces deux approches, quoi.
Bah, ils avaient des choses, hein. Ils avaient, à une époque, ils étaient même plus avancés que Linux.
Bah, ils avaient des traits,
oui, complètement.
Ouais, ouais.
Complètement.
Donc ils ont quand même pas mal de choses, hein, mais voilà. En tout cas, la convergence, encore une fois, entre les deux plateformes est intéressante à noter.
Le point suivant, c'était un petit lien sur les gens de chez Framework, donc Frame.work. Ce sont des constructeurs de hardware open qui proposent une nouvelle édition de leur laptop. Donc c'est un laptop qui est fait pour être... bricoler vous-même avec des choses qui sont assez open source, modulaires, donc plutôt des choses qu'on va garder dans le temps et juste changer les bouts qu'il faut changer, un truc qui normalement est assez upgradable et bricolable, tout en étant là sur des choses où, enfin, ils proposent du Core i7 qui tabasse à 4.8, 64 Go de RAM, 2 Tera de disque, enfin, ils sont pas sur... On n'est pas pour une petite machine, là. On est parti sur un truc avec un gros moniteur 4K, machin. Enfin, on n'est pas, enfin, voilà, c'est pas une ambition de faire un petit laptop. Là. C'est vraiment sur faire une belle machine, avec une notion d'expansion pack un peu marrante aussi, plutôt que des adaptateurs pour aller mettre ce que vous voulez. Normalement, un truc bricolable. Là, c'est une pré-sortie avec livraison cet été. Je l'ai trouvé assez excitant, ce hardware, notamment avec un espèce de touchpad qui ressemble vachement à celui de chez Apple. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce laptop. Je ne sais pas ce que vous pensez des laptops en général et de l'explosion qu'il y a aujourd'hui autour des vendeurs de laptops.
Bah, l'approche open est toujours intéressante. Hein. On retrouve une notion de modularité. On avait vu ça sur un téléphone aussi à une époque... à base de Grébus, etc. Donc il y avait cette notion. Alors, là, ça s'est fait différent, mais c'est vrai que ce côté assemblage est intéressant. Après, je pense qu'il faut être passionné parce que il y a quand même un surcoût qui est quand même assez conséquent. On est sur un ticket d'entrée à plus de 1 000 $, donc c'est quand même, enfin, c'est quand même pas anodin. Après, sur la partie open, bah, on arrivera un peu. C'est le sujet que, en tout cas, moi j'aime bien, c'est la partie open firmware. On peut, même si c'est très open, je pense qu'il y a toute une partie, notamment le BSP, qui sera pas open sur la partie Intel. Donc voilà, on aura quand même une limitation, faut pas s'attendre à ce que 100% soit accessible. J'ai pas assez gratté pour voir s'ils proposaient du Linux Boot, ou ce genre de choses pour avoir quelque chose de vraiment très open au niveau firmware. Après, le côté réparabilité, clairement, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement trop de laptops, qui finissent à la poubelle parce que soit ils sont pas démontables, soit parce qu'il y a juste une pièce qui a cassé et que la référence est plus disponible. Et ça peut être qu'un gros plus de pouvoir faire un assemblage soi-même des composants qui nous intéressent. Petit point bémol pour moi, dommage qu'il n'y ait pas un proc AMD qui aujourd'hui quand même offre un ratio consommation-performance qui est quand même imbattable sur le marché.
Alors là, je retrouve pas, j'essaierai de retrouver le lien entre temps, mais j'ai vu quelque chose d'assez équivalent à ce qu'il y a fait sur Framework, mais chez un fournisseur français, enfin en tout cas le site était français, Il y avait de l'AMD et il y avait du Linux Boot. Donc je vais essayer de retrouver le lien, on mettra dans les show notes. Hmm,
et ils font pas du Core Boot
ou du Core Boot. J'ai pas vu, mais peut-être.
Ils ont quand même. Il y aurait tout pour que ça en fasse.
Oui, il y en a probablement. Hein. Là, je suis pas assez gratté pour être affirmatif, mais en tout cas, ouais, c'est.
Oh, attends, pas toujours.
Si ça pouvait supporter hors boot en plus de core boot, ça serait encore mieux. Hors boot étant core boot sans le C. Du coup, c'est core boot réécrit en Rust. Ils ont viré le C de core boot.
C'est
et
beau.
Du coup, ils ont appelé ça hors boot.
C'est du silence.
J'aime beaucoup. Okay. À titre perso, du 4K sur un écran de 13 pouces, je trouve ça un peu excessif. Que ce soit sur la taille ou sur la consommation, parce que les écrans 4K, malheureusement, consomment pas mal. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes d'autonomie, mais je trouve ça, sur du 13.5, je trouve ça un petit peu excessif. Quoi.
Tu parles aux mauvaises personnes en disant ça à Marco et moi, on passe notre vie à foutre une résolution de bâtard sur nos 13 pouces avec tout décrit en tout petit.
J'ai pas un 13 pouces. J'ai pas un 13 pouces. Sur un 13 pouces, je mettrai jamais du 4K. C'est...
Oui, mais moi c'est pareil, je suis pas complètement 4, mais en vrai, je sais plus combien j'ai de côté de résolution, mais ma résolution elle est forte. Sur mes deux laptops, ma résolution, ouais.
T'es pas
sur
en 2007 ou un truc
comme ça? 2560 de côté.
C'est tout à fait significatif ce que tu dis. Attends, c'est quoi la résolution?
Attends, faut que je vois. 2560,
c'est excuse-moi, j'arrive pas à voir.
En tout cas, je pense que ce serait bien. Faudrait qu'on trouve quelqu'un qui fait du core boot toute la journée, qu'on invite une fois pour parler core boot. Ce serait cool, non?
C'est
hyper intéressant, ces sujets-là. Tu connais ça ou pas? Faut inviter qui?
Je suis pas un grand expert. Par contre, il y a Julien. Laisse-moi retrouver son nom de famille. Qui est un des devs dans tout cet environnement-là, qui est français. Qui travaillait dans une boîte qui faisait du recyclage de matériel. Julien, ah putain,
Villemin.
Attends, j'ai retrouvé son. Laisse-moi deux petites secondes. Merci. Je crois que c'est Julien Viard.
C'est ouais, ça. Julien Viard, je vois plein de commits. Ouais.
Bah, Julien, c'est français, de sa part. Ouais, Julien, c'est un des devs français. Donc, oui, il faut l'inviter. Julien Viard de Galbert. Que notamment, il était venu en parler parce que je fais aussi. Donc, je fais Kernel Recipes. Du coup, là, je sors quand même 6 boutiques. Hein, je suis désolé. On fait aussi Embedded
Recipes. Oui, enfin, boutique associative qui n'est pas spécialement là pour vendre. Ça va, ça reste.
Voilà. Non. Et donc, on fait Embedded Recipes qui est le petit frère en fait, de Kernel Recipes. On a trop de sujets embarqués. Donc, en fait, on a fait un petit fork en disant on va mettre tous les sujets embarqués dans un truc qui ressemble, qui est pareil, qui est collé en termes de planning. Mais voilà, qui a sa propre identité, et donc il était venu parler notamment de comment tu testes du core boot ou du Linux boot d'un point de vue CI en fait, parce que c'est bien beau de développer, mais il faut tester, et donc il avait mis en place un système qui leur permettait de tester automatiquement leur code sur des machines modifiées. C'était assez intéressant. Je vous pointerai le lien si vous voulez voir sa présentation qui est assez intéressante sur comment on fait pour tester du code embarqué.
Vaste question.
C'est sympa, ils avaient instrumenté le truc en fait. Ils ont démonté le chip d'une machine et après ils l'émulent en fait avec des injecteurs. Et en fait, le code qu'ils ont produit est injecté à la place du chip. Et ça permet en fait à la machine de booter sur une image fausse en fait, qui est émulée par un équipement. Externe à la machine en fait. Et donc c'est intégré dans une CI, bah, tu peux tester. C'est aussi utilisé par certains fabricants qui veulent fournir de l'ABMC libre. Tout ce qui est OpenBMC notamment, c'est à peu près la même stratégie en fait.
Ouais, dans les gens qui font du Open Compute aussi, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus.
Ouais, bah, c'est proche, hein, c'est les mêmes personnes, hein, tu retrouves à peu près les mêmes profils et les mêmes sujets.
Très rapidement, je vois un truc, un tools, c'est Vim Terminal. Expliquez-moi cette histoire.
Tu ouvres ton Vim, tu tapes deux points terminal et tu as un terminal qui s'ouvre dans ton Vim. Voilà, c'est tout. C'est on était plusieurs dans la team à pas être au courant de cette feature-là de Vim, et puis il y a quelqu'un qui disait « Hey, je vois beaucoup discussions autour des terminals multiplexeurs entre Screen, bon, qui a fait son temps, Temux qui a fait son temps aussi, mais qui est encore très très populaire, et les nouveaux, genre ZLJ, qui est écrit en Rust, qui a émergé il y a pas longtemps. » Il disait « Mais je vois personne parler de la feature de terminal de Vim qui permet de faire ça aussi, vu que Vim fait du tiling, tu fais des tiles, t'ouvres des terminals avec deux points terminal, et puis... Et voilà, ça te fait ton terminal multiplexeur, quoi. C'est... Donc voilà, c'était juste la petite anecdote de tu peux ouvrir un terminal dans ton Vim.
Et du coup, tu peux faire un terminal multiplexeur dans Emacs aussi ou...
Oui, vu que tu peux ouvrir Vim dans Emacs.
Et mettre un Tetris à côté.
Ok.
Bon, bah voilà, un truc que je vais utiliser tout le temps.
Le TLDR Pages, qui a mis cette news?
J'ai mis ça, enfin, c'est peut-être vieux comme Erad, hein, mais moi j'avais jamais entendu parler de ce truc. C'est un truc qui est un peu maintenu communauté et qui permet d'avoir une sorte de cheat sheet, c'est-à-dire plutôt qu'avoir un man où tu vas chercher les options et compagnie, ça va te mettre quelques exemples d'utilisation d'une commande. Donc tu vas lancer TLDR tar par exemple, et tu vas avoir quelques exemples de commandes tar avec des options classiques qu'on utilise pour faire tel ou tel truc. Rsync, tiens, pour tel besoin, tu vas avoir faire rsync ceci, rsync cela, et pas la liste, juste le catalogue des options complet. Donc c'est pas mal, c'est assez sympa, c'est assez court à utiliser. Quand on découvre, c'est bien, et quand on découvre pas et qu'on se souvient pas de la totalité des trucs... Et le format a l'air assez simple à implémenter. Je pense même que quand on veut se faire ses propres pense-bêtes ou choses comme ça, c'est pas mal pour documenter des usages classiques de commandes, quoi.
D'ailleurs, ça fait quelques années sur ma machine. Ouais.
Je vais faire la contre-news de ce truc-là.
Ah, vas-y.
Je vais faire l'appel du cœur. Parce que justement, les main pages, ça fait un peu vieillot, etc. C'est un projet qui est maintenu par Michael Kirisk. Et en fait, je pense que je vais faire un appel, hein, mais contribuer au main page, en fait. En fait, on est tellement habitué à les avoir.
Ouais.
Et c'est dispo. En fait, on en oublie, en fait, au fait qu'elles soient là. Et on en oublie presque qu'il faille les mettre à jour, qu'il faille contribuer. Il y a eu un appel à peu près similaire de Jonathan Corbett, de AWN, que vous connaissez, sur la partie documentation du kernel. Il y a une tâche en ce moment qui est en train de transformer toute la répertoire de documentation en RST, par exemple. Et il dit, en fait, toutes ces parties-là de documentation, que ce soit du kernel ou les main pages, ben, en fait, c'est un peu laissé à l'abandon. Alors, parfois, pour d'autres projets, parce que les gens n'y pensent pas, etc. Et quand on rajoute des features, ben, c'est un peu le parent pauvre en ce moment. Et donc, il y a eu des appels à contribution en disant, ne vous oubliez pas.
Après, voilà. Les main pages, ça dépend de la manière dont elles sont gérées, parce que selon les projets et tout ça. Mais, bon, écrire du grof, c'est pas forcément l'expérience utilisateur la plus agréable au monde non plus.
Ouais, il y a des choses qui permettent de le générer, hein, mais...
Je suis en train de faire une contrib dans laquelle je dois modifier du main page, et c'est chiant, etc. J'en conviens, mais malgré tout, tant qu'on n'a pas quelque chose... Enfin, il ne faut pas l'abandonner, quoi. Il faut pas,
ouais, c'est clairement crucial. C'est
chiant. Ah, clairement, c'est indispensable.
Alors, si j'ai pas été clair, en tout cas, je présentais pas cet outil rigolo comme une alternative au man page. C'est plus un outil cheat, là, en l'occurrence. Hein.
Ma réaction, c'était plus par rapport à ce que tu disais.
Ah, mais normal. Hein.
En fait, le man page est trop long et on a parfois envie de juste dire, putain, c'est quoi le truc, là? J'ai juste besoin d'avoir tout de suite l'info que je cherche et j'ai pas envie de passer 30 ans. À la limite, tu vas faire une Google Research pour dire, je fais ça comme ça. Comment, pour faire ça plutôt que lire le man page? Je suis complètement d'accord avec toi. C'était juste, voilà, essayer de faire le pendant.
Ah, mais c'est tout à fait complémentaire, on est d'accord.
SVP contribuer au main page, c'est pas ingrat, enfin si, c'est un peu ingrat, mais il faut le faire pour le bien de tout le monde.
C'est ça, c'est clair.
Les quelques dernières news, la première, c'est qu'IBM vient d'annoncer qu'ils ont gravé quelque chose en 2 nanomètres. Alors, quand ils disent quelque chose, on sait même pas ce qu'ils ont gravé. Hein. Ils te disent juste, on a gravé une puce, on a collé de l'aigle dedans et ça a fait ce qu'on avait prévu. C'est plus une release, ça ressemble plus à de l'annonce presse qu'autre chose, mais a priori on a pu envoyer quelque chose et genre ça a répondu coucou, quoi.
Enfin, c'est une manière aussi de se poser comme ayant la capacité technique de le faire, quoi. C'est, et donc les usines qui vont avec, quoi.
Bah, les éléments qui étaient quand même intéressants sur la news, sur le wafer là, qu'ils ont fait, c'est d'une part la densité qu'ils arrivent à obtenir de transistors, parce qu'il faut penser maintenant en trois dimensions, parce que les transistors sont en trois dimensions, mais c'est surtout la continuité du gain d'efficacité d'électricité. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent qu'à perf égal, on va avoir un trois quarts de consommation en moins. Quoi. Et c'est là où ça va être vraiment, je trouve, par rapport à du 7 nano. Hein. Donc c'est par rapport à du TSMC 7 nano, tu as quand même trois quarts de consommation en moins. Donc ça peut faire des processeurs soit extrêmement performants, soit des trucs hyper à basse conso. Et donc là, on peut trouver un intérêt. Aujourd'hui, la conso, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Enfin, moi, de ce que je vois dans les data centers,
la conso, c'est un vrai problème. En side effect, ça fait moins de chaleur aussi.
Ouais, clairement. Donc c'est, pour ça, c'est une vraie avancée. Et puis, il faut se souvenir que IBM était à l'origine en fait de la technique de fondage qui est utilisée aujourd'hui par TSMC, qui est le fondeur aujourd'hui qui bouscule Intel par la fourniture de processeurs soit ARM, soit Intel, enfin x86 avec AMD. Donc aujourd'hui, il y a quand même une grosse activité autour de ce sujet-là. Donc oui, ça reste de la recherche, etc. Mais on peut quand même espérer, vu qu'ils l'ont déjà fait sur le 7 et sur le 5 nano, que ça finisse par transitionner chez TSMC pour avoir quelque chose qui soit mettable en production.
Et n'oublions pas que sur la conso, si on fait des quantum leaps comme ça, si vraiment on arrive à faire des gros bons comme ça de performance, il y a des choses. C'était chez Huawei, ils avaient fait un téléphone qui n'avait plus de prise chargeur réseau, qui se rechargeait uniquement par les mouvements du quotidien du téléphone, puis factuellement un peu en le posant sur une prise de recharge en induction. Mais l'idée, c'était comme ça que le téléphone marche aujourd'hui. Mais si tu continues à faire baisser toute la conso, on pourrait imaginer des dispositifs électroniques qui n'ont plus besoin d'être branchés. Jamais. Et ça, c'est, enfin, en termes d'usage et de ce que ça ouvre comme porte, je trouve ça assez dingue.
Ça va être le retour du 3210, quoi. Le truc que tu télécharges, tu le charges une fois, et puis il tient une semaine ou 15 jours.
Il sonne encore 20 ans plus tard.
C'est ça.
Bref, il se passe beaucoup de choses chez la fonte. C'est souvent ce qu'on dit hein, dans ce podcast. On invite les gens à aller voir. Il y a notamment Apple qui est venu foutre le bordel dans l'écosystème du processeur avec M1. Et on ne va pas nécessairement revenir sur le SOC qu'a fait Apple aujourd'hui. Mais clairement, aujourd'hui, il y a une poussée de plein de choses
qui se passent dans cet écosystème.
Et je pense que c'est une bonne chose que ça arrive et ça crée de l'innovation et ça crée de l'investigation. Et je trouve ça bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose. Et du coup, bah, ça prouve aussi qu'IBM est toujours dans la course et vend toujours de la techno à d'autres. Quoi. Ok. La news suivante, je vous ai mis le petit lien. Donc pour ceux qui auraient loupé la news, Cache Investigation a parlé de notre métier à tous. Puisque donc Cache Investigation, avec à la fois ses qualités et ses travers, a fait tout un épisode sur la gestion de la donnée, sur qui prenait la donnée personnelle. C'est un sujet qui est important, surtout que je ne sais pas si vous avez suivi, mais et même si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, le gouvernement français a sorti sa doctrine du cloud lundi dernier. Je suis encore un peu pantois de qui, dans un ministère, s'est dit genre on va sortir un truc et on va l'appeler doctrine et ça aura l'air positif, tu vois. Je sais pas trop comment t'en arrives à cette conclusion-là. Mais du coup, pour fêter un peu ce lancement, Cache Investigation a fait tout un reportage sur la gestion de la donnée. Ça allait travers de Cache. C'est une émission grand public. Moi, je trouve que c'est intéressant d'éduquer les gens sur ce qui se passe. Je pense que c'est important d'interpeller les gens sur ce qui se passe. Je suis pas à 200% derrière tout ce qui est dit dans ce reportage, mais je le trouve pertinent et je pense que c'est important que ça existe. Et surtout, c'est un bon outil de vulgarisation. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien là. Je sais pas si vous avez un truc sur lequel vous voulez rebondir ou pas du tout.
C'est bien de sensibiliser. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas vu le reportage, donc je m'exprimerai pas dessus parce que je sais pas sous quelle langue c'était attaqué, mais oui, très clairement. Le nombre de gens qui vont te dire moi j'ai rien à cacher, je m'en fiche, est quand même assez important et c'est un peu souvent le premier raisonnement qu'on peut trouver autour de soi, d'éduquer à qu'est-ce que cette donnée-là, qu'est-ce qu'elle vaut et à quoi elle sert. C'est quelque chose qui me semble intéressant. Donc si ça peut toucher le grand public et de se dire tiens, la prochaine fois je vais faire gaffe et je vais éviter de filer des entreprises privées.
Ça serait bien que ça touche le grand public et les responsables publics aussi, parce que il y a un gros problème d'éducation de ce côté-là aussi, hein, parce que c'est quand même assez à côté de la plaque, quoi.
Ouais, petit exemple à la con, hein, à l'école de mon garçon, il proposait à ce que les enfants puissent payer, enfin rentrer à la cantine avec un système, tu sais, un peu comme les data centers où tu passes ta main sur une plaque pour prendre des empreintes biométriques. Et donc l'argument, vraiment, hein, moi j'ai vu le truc, j'ai dit, mais pourquoi en fait? Ah bah comme ça, il peut pas perdre sa carte. Bah, il m'en fiche, bah, il perdra sa carte s'il veut, mais j'ai pas filé des infos biométriques de mon enfant à une entreprise privée, parce que du coup, c'est même pas... ça, ouais. C'est pas un truc étatique ou quoi que ce soit. Là, c'est une entreprise privée qui gère à la cantine, qui récupère des infos. Alors, c'est un niveau de précision que ça, hein, mais dans le principe, de dire, je vais utiliser de la biométrie de mon enfant pour ouvrir, pour qu'il puisse aller bouffer à la cantine. C'est ben non. Et le nombre de parents qui disent, bah, ouais, au moins c'est bien comme ça, il perdra pas sa carte. C'est ben non. Enfin, non, non.
Un petit carnet de tickets papier, hein, c'est bien aussi.
Ouais, ou alors voilà, un bracelet, tu vois. Mais... un bracelet NFC, et on en parle plus, quoi. C'est.
Ah, bref, voilà, donc je trouvais, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, mais.
Pour que ça marche avec les ondes, Marc-Antoine Perrenou, ton bracelet NFC, c'est les ondes. T'es sûr que tu veux que ton gamin croise des ondes?
C'est vrai, ça. Bon, avec les, ça, c'est les chemtrails après.
Les gamins, ils croisent suffisamment de micro-ondes pour être vaccinés toute leur vie, hein, c'est.
Tu veux dire que le soleil, sunshine sur la Terre?
Du coup, on va être à la puce NFC sous la peau, comme ça, ils ne vont pas la perdre. C'est ça.
Et voilà.
C'est ça ta proposition, en fait.
C'est exactement parfait. Ça. Pas mieux.
Note que je sais pas
du coup, est-ce que ça devient biométrique?
Ah ben non, c'est pas biométrique. C'est pas de la quantification du bio.
Si c'est à l'intérieur de ton corps, est-ce qu'on peut considérer que c'est biométrique? À part techniquement, j'entends, légalement.
Ceci dit, pour avoir cherché pour des amis il n'y a pas longtemps, les puces NFC pour chat sur AliExpress, t'es vraiment à pas cher, t'as le kit pour les poser en même temps. Si ça marche sur l'animal...
Ah, pour ouvrir les chatiers, hein.
C'est pour ça, pour les pangolins.
Bon, on dérive.
Bon, ça dérape. C'est la fin. C'est le moment de conclure.
Ce que je vous propose, c'est peut-être rappelez-nous où on peut vous trouver. Marc-Antoine, où est-ce qu'on peut te retrouver?
On peut me retrouver chez moi en télétravail, et... sinon sur GitHub et sur Twitter pour de l'open source et du shitpost de qualité. c'est @kerusp, K-E-R-U-S-P-E. Et des discussions de crêpes et de galettes avec notre ami Erwan aussi.
Bien sûr, j'ai oublié de le dire en introduction, mais c'est comme ça qu'on a discuté les premières fois via d'autres personnes interposées.
Puisque tu parles, où peut-on te retrouver, Erwan?
Alors moi, on peut me retrouver, allez, on va prendre les trucs les plus modernes, Twitter, GitHub, et pour les plus vieux, sur l'IRC, Erwan underscore Taf. On sur Freenode au FPC. Et puis, ça doit être Erwan alias Erin sur Twitter et sur GitHub.
Et bien sûr, au Twitter, prochain Kernel Recipes, où tu peux nous faire l'annonce qu'il y aura un prochain Kernel Recipes.
Pas de prochain Kernel Recipes. Alors oui, il y aura, c'est sûr. Après, voilà, la date et le moment, c'est encore indécis. Est-ce que ce sera cette année? Ça nous paraît compliqué à cause du sanitaire, ça ferait prendre trop de risques. Déjà d'un point de vue organisation puis sanitaire, parce qu'on ne sait pas si les gens pourront voyager, parce qu'on a quand même, on va dire, une audience internationale, donc on aimerait que les gens quand même puissent venir. Il y en a qui viennent du Mexique, des États-Unis, enfin d'Asie, etc. Donc, s'ils peuvent pas venir, on sera un petit peu triste de pas les voir. Donc voilà, pour l'instant, on essaie de regarder peut-être début 2022, et là, c'est-à-dire retrouver une date, parce qu'il faut toujours avoir une date un peu marquante pour que les gens se souviennent qu'à telle date, je vais là-bas. Parce qu'on a des gens qui voyagent beaucoup, donc on peut pas non plus mettre la date n'importe quand. Donc voilà, c'est en discussion avec les organisateurs et puis nos gros supporters, nos habituels, pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut coller ça. Mais voilà, on peut espérer peut-être début 2022. Ouais.
Et Pierre-Antoine, ce sera
à Paris. Et puis voilà, c'est très peu cher, c'est le but. Un des concepts, c'est qu'un chômeur, un étudiant ou un professionnel puisse venir avec la même facilité. On ne veut pas d'une conférence à 800 000 balles qui, du coup, devient élitiste. Il faut vraiment que ce soit accessible. Donc, en général, c'est quelques dizaines d'euros max par jour. Pour vraiment que ce soit avec la bouffe intégrée. Hein, pour que ce soit vraiment convivial et très accessible. Par contre, bah, la contrepartie, c'est que le mot de passe étant fixe, l'inscription dure quelques minutes seulement. Mais elle est équitable. Tout le monde a sa chance. Voilà. Je ferme mon M6 boutique.
Et toi, Pierre-Antoine, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Bah moi, pour être original aussi, Twitter, GitHub moins actif, mais Twitter, je shitpost aussi. Et puis j'espère un jour aussi à Vox Days Luxembourg en conférence aussi. Si un jour on arrive aussi à l'organiser, on est sur le même constat. Je crois que 2021 c'est mort, mais que c'est reparti pour 2022 quoi.
Je vais pas vous mentir.
En espérant que ce sera le cas.
Des économies sur le budget d'Evrel cette année.
C'est sûr.
Par contre, on avait commandé tous les goodies de l'année 2020 en janvier. Et ben, on n'a pas fait des économies sur le budget stockage des goodies. Voilà.
C'est certain.
Bien, et ben, je vous laisse. On se quitte avec la musique choisie par Erwan. On est sur un classique, on est sur du Madonna, She's made it through the wilderness somehow. Enfin, on te remet un peu.
C'est pas une version classique. She didn't
know how lost. C'est sorti par un barbu, du coup, toi, c'est un peu raccord avec le thème. Until she
found. Ah oui, d'accord. Donc, on se quitte sur une bonne version d'une. She'd been had. She was sad and blue. Erwan. J'espère que ça vous plaira. Merci à tous. Merci encore. Salut.
Ciao.
Shiny and new.
Like a virgin. Touch for the very first time. Like a virgin. Your heart beats. In time, gonna give you all her love. Her fear is fading fast. In saving it all for you, only love can last. She's so fine, and she's thine. She'll be yours till the end of time, 'cause you made her feel.